Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous le savez, consacrée à l'actualité, les 8 heures pile sur les ondes de Radio Galère, et on est ravis de vous accueillir, et ce jusqu'à 10h. Anthony au micro, accompagné du trio habituel, Christian et Richard. Voilà, Christian nous fait son retour, et on en est extrêmement ravis. Avant de vous donner la parole, évidemment, messieurs, je rappelle que nous sommes audibles sur le 88.4 de la bande FM, mais également sur le www.radiogalère.org. Et pour ceux qui possèdent la RNT, la radio numérique terrestre, c'est le canal 8C. Alors, on s'excuse auprès de nos auditeurs, c'est indépendant de notre volonté. Mais on devait recevoir deux innovateurs et créateurs d'une application notamment consacrée aux étudiants, à leur bourse, à leur budget, à leur parcours universitaire. Voilà, ils nous font faux bond à la dernière minute. C'est aussi ça les aléas du direct, les aléas évidemment de la spontanéité radiophonique. Donc ils ne seront pas là avec nous ce matin. Ça ne nous empêchera pas d'être à l'antenne et de balayer l'actualité avec Christian, avec Richard. Et moi-même au micro, évidemment. 8h45, 9h25, Fabrice Aubert pour nous parler du libre-échange sur les ondes de Radio Galère. Et puis on conclura notre matinale avec un dossier sur et un éclairage sur l'école de la deuxième chance à Saint-Louis. Voilà, on va vous parler un petit peu de ce dispositif au cœur des jeunes de 16 à 25 ans. On aura sa directrice générale qui sera avec nous, Lila Sommet, accompagné de Monsieur Agnel, qui est responsable de la filière restauration et qui nous parlera un petit peu de tous les axes, les combats, les luttes et le travail remarquable que mène cette école de la deuxième chance, une école qui est bien connue de Radio Galère, notamment. Bienvenue à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Galère. Et évidemment, bonjour Christian, bonjour Richard.
Allez, auditeurs, auditrices, bonjour. Christian, Anthony, bien entendu. Comme chaque fois je vous présente les journées mondiales du jour, il y en a une qui est très triste. C'est la journée mondiale des orphelins du sida. Bon, alors, c'est une maladie malheureusement grave, très grave. Et on a recensé par exemple 15 millions en 2005, 15 millions d'orphelins. Alors maintenant, il va y en avoir plus malheureusement. Et... C'est vraiment, énorme, protégez-vous, faites attention, car c'est une maladie qui est sexuellement transmissible, on le sait, et très grave, et puis pensez aussi à vos enfants, vos progénitures, etc. Bon, une journée bien triste, hein, bon. Pour varier légèrement, aujourd'hui c'est la journée du rire, les enfants. Eh bien...
On passe des larmes au rire.
Et c'est ça. C'est ça la vie, hein. On passe des larmes au rire, hein, effectivement. Alors, c'est la journée du rire aujourd'hui. Alors, que dire sur le rire? Bon, vous avez énormément de théâtres, de petits théâtres sur Marseille, qui font des comédies sympathiques, les gens rient, etc. N'hésitez pas à sortir. Vous avez aussi des groupes qui font... ce qu'ils appellent le truc du rire, si vous voulez. Donc ils se réunissent, ils rient un petit peu forcé, mais ça dégage les forces, etc. Bon, c'est la journée du rire, franchement. Allez-y, mettez la gomme et n'hésitez Alors, pas, si vous avez des blagounettes, racontez-les.
C'est intéressant ce que tu dis, Richard, évidemment, parce que on passe un petit peu d'un sujet extrêmement dramatique, oui, notamment sur les orphelins, à la journée du rire. La transition, évidemment, peut paraître bancale, mais en tout cas, elle a du sens. Et donc, évidemment, journée aujourd'hui, donc mercredi 7 mai, journée du rire, profitez-en, allez développer votre sens du rire auprès de vos familles, de vos amis. Allez vous rendre, comme tu l'as si bien dit, dans les théâtres. On a la Comédie des Suds qui fonctionne très bien ici. On a les théâtres, on a plein de théâtres, hein, le théâtre de l'œuvre, le théâtre... Il y en a plein, il faut les citer. L'antidote, évidemment, on pourra...
Le nouveau théâtre de
Le Carpe. Il y en a beaucoup, mais surtout, pensez, il y a les stand-uppers aussi qui font des soirées sur le rire. Et c'est important de le rappeler. Et merci à Richard de nous faire ces éclairages-là.
Oui, c'est très important parce que je trouve que dans une époque bien triste, où on verra peut-être un peu d'actualité tout à l'heure... qui est une époque très anxiogène, où malheureusement je critique un peu l'ensemble des journalistes qui ne parlent que de ce qui ne va pas. Et ça m'agace profondément. Alors que malgré tout, il y a beaucoup de choses qui vont très très bien. Et ça permettrait aux gens de voir un petit peu aussi autre chose que tout ce qui devient abominable aujourd'hui. Voilà. C'est un cri, un appel à la vie, au sourire et au rire.
Mais merci en tout cas, Richard, d'avoir fait cet éclairage. Bonjour à toi, mon cher Christian.
Oui, bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Galère. Bonjour à toute l'équipe, Anthony et Richard. Et tu as cité deux journées mondiales. Tu es passé d'une journée mondiale qui est une maladie, hein, le sida c'est une maladie, au rire. Et le rire, ben, c'est une thérapeutique. C'est thérapeutique le rire, on dit souvent. Donc oui, tu as bien oui. fait, le lien peut être fait parce que finalement, rire c'est aussi améliorer sa santé. Je ne dis pas que ça guérit le sida, attention. Ne me fais pas dire ça, mais c'est quelque chose qui est très bon pour la santé. Donc on peut lier les deux et tu as bien fait de faire ce lien. Parce que rire régulièrement dans la journée, ben, au niveau de la santé, ben, c'est vrai que ça apporte du tonus, ça apporte de la gaieté. Au niveau psychologique, ben, ça donne une vision positive des choses, malgré, comme tu l'as dit, les médias qui nous abreuvent de toutes sortes de pathologies de l'esprit et de mauvaises nouvelles. Donc il faut rire, bon je ne dis pas il faut rire de tout, mais pourquoi pas, on peut au moins essayer d'en rire, Richard. Et tu as bien fait de souligner cette journée, et ça mérite un grand rire, Richard.
Ça mérite un grand rire, ce matin.
Rions sur Radio Galère.
Ce matin, j'ai un exemple, j'ai acheté un croissant. Il y avait une dame qui était à côté de moi, j'ai fait une petite blagounette, tranquille, elle a rigolé, elle m'a dit « Oh monsieur, vous me mettez ma journée en excellence ».
Et voilà.
Voilà, donc ça c'est des petits trucs de la vie, si vous habituez à les faire, vous verrez, tout s'éclaire.
Voilà, on éclaire une journée d'une personne, et bien chacun peut faire ça, puis ça fait des milliers de personnes, bravo Richard.
Alors, deux petites brèves sur Marseille, s'il vous plaît.
Richard, juste un point. On te remercie à chaque fois, évidemment, pour les éclairages que tu fais sur ces journées-là, parce que si tu ne les faisais pas, on les oublierait, on les occulterait, et elles ont quand même le mérite, même si parfois elles peuvent être plus ou moins, quand je dis négatives, ou je veux dire poignantes, ça nous permet de faire un éclairage et d'évoquer la journée du jour, Richard.
Alors, juste deux brèves sur Marseille.
Je t'en prie, je t'en prie.
Marseille, en fait.
Eh bien,
Marseille est désormais sœur jumelle d'Erevan. C'est-à-dire, Erevan, c'est la capitale d'Arménie. On sait que sur Marseille, il y a la plus grosse communauté arménienne.
Erevan, comme on dit.
Pardon ?
Erevan. Comme
Erevan, oui.
Au niveau de la prononciation.
Si tu veux, prononciation. Et donc, ben voilà, Marseille fait désormais partie sœur jumelle. C'est une bonne chose. Voilà, c'est à signaler.
Il faut le signaler, tu as raison.
Tiens. Et alors ?
Parce qu'on sait que la communauté arménienne est très forte à Marseille, évidemment.
Ouais. Et alors, aussi, nous avons une prestation sur Marseille, c'est au bout de la mer bleue, le retour sur la canebière. C'est-à-dire, donc, un vent d'iode soufflera sur la ville dimanche 18. Donc, avec... Ben, des gens qui sortent avec des tambours, des machins, etc. Des tas d'activités. Le dimanche 18 sur Marseille, c'est la fête, c'est pas le rire, mais on peut y aller.
Voilà. C'est le rire aussi, Richard, parce que y a
c'est
pas...
juste pour la petite actualité régionale.
Voilà. Exactement. Alors, tu le sais, normalement, on fait l'actualité régionale en fin de revue de presse. Mais Richard, c'est aussi ça. C'est la spontanéité. Et c'est très bien. Ça fait partie des lois du direct. On va revenir sur les actualités nationales, notamment Christian, avec un rapport qui dénonce les discriminations dans l'accès aux soins en France. Alors, vous le savez, sur les ondes de Radio Galère, on a l'habitude, sur cette première partie, d'avoir très souvent des invités. Aujourd'hui, on a un impondérable et des absents, donc on en profite pour faire de l'actualité aussi.
Et d'approfondir peut-être certains sujets.
Et d'approfondir ces thématiques-là, puisqu'elles ont vocation en tout cas à vous donner les informations. Évidemment, les médias de masse vont parler de telle ou telle entité politique, telle ou telle affaire dramatique ou autre, et c'est leur droit. On essaye, nous, d'avoir un regard un peu plus profond sur des thèmes qu'on met rarement en avant, ou alors peut-être qu'on n'a pas assez mis en avant. Donc là, on a un rapport qui dénonce les discriminations dans l'accès aux soins en France. Il faut quand même rappeler que depuis le Conseil de la Résistance, donc en 1945, lorsque la France sort de la Deuxième Guerre mondiale, on ne va pas y revenir évidemment, les tenants et les aboutissants, nous avons créé le Conseil de la Résistance et créé cette sécurité sociale qui était quand même un emblème extrêmement fort, Christian et Richard, pour la France, et qui à ce jour est en régression sociale, bien qu'on ait quand même un système de santé extrêmement efficace, extrêmement utile et précieux pour les Français et les Françaises et pour les citoyens, j'ai envie de dire, de France. Sauf que on est en régression et que ce privilège qu'on a depuis tant de décennies, il est en train justement de perdre sa superbe et ça pose un vrai problème. Et là, en fait, on nous dit que dans ce rapport-là, vous savez qu'en théorie, les professionnels de la santé, les médecins, les infirmiers, et tous ces corps de métier-là, n'ont pas le droit de refuser un patient, sauf dans des circonstances très précises. Mais dans les faits, cette règle fait l'objet, Christian Richard, de nombreuses entorses, selon un rapport, comme on le rappelle, de la Défenseur des droits. Donc on n'est pas sur un rapport de telle ou telle association, tel ou tel lanceur d'alerte, c'est quand même la Défenseur des droits, Christian.
Exactement, un défenseur des droits, on sait, intervient dans nombreux domaines, dans la santé, mais elle peut intervenir aussi dans ce qui se passe en prison, avec les mauvaises conditions des détenus. On sait bien, on a fait souvent des émissions là-dessus, avec le sort déplorable qui est donné aux détenus qui s'entassent dans une cellule réduite et qui, donc, finalement, ont des conditions de détention qui sont pratiquement horribles. Voilà, donc elle intervient dans ces deux domaines. Là, elle a fait un rapport sur la discrimination dans les soins. Comme tu l'as dit, normalement, on ne doit pas faire de discrimination dans les soins. C'est-à-dire un médecin, ben, il doit accepter un malade, quel qu'il soit.
L'accès aux soins pour tout et pour tous.
Exactement.
Sans discrimination.
Sans discrimination, même pas la discrimination d'argent, parce qu'il doit soigner même quelqu'un qui n'a pas d'argent. On rappelle, s'il y a le fameux serment d'Hippocrate, qui dit que tout le monde a droit à un soin, qu'il ait de l'argent ou pas de l'argent. Donc, et pourtant, malheureusement, dans un pays comme la France, qui est au sommet des droits de l'homme, apparemment, qui se vante d'être la lumière du monde au niveau des droits, des libertés, d'expression, etc. Et j'en passe. Mais voilà, il y a des discriminations. Alors comment ça se fait qu'il y a des discriminations? Sur quoi c'est basé? Eh bien, on voit bien que malheureusement, si qu'on soit un homme déjà ou une femme, déjà, ben, on n'est pas accueilli de la même façon, on n'est pas écouté de la même façon. Et ça, c'est déjà dramatique. Ça, je parle rien que déjà dans la différence de sexe. Et Richard, peut-être, ou toi, Anthony, tu as peut-être eu des échos de voir que finalement, on est plus écouté quand on est un homme, par exemple au niveau des douleurs, si des sentiments de maladie, de frustration psychologique. Quand c'est une femme, eh bien, souvent les médecins relativisent, disant bon, ben, c'est peut-être la fabule, c'est passager.
Vu que tu nous sollicites, moi j'ai jamais eu.
Peut-être vous avez des exemples.
Non, mais j'ai jamais eu cet exemple-là. Moi, je pense que ce qui est pertinent dans ce dossier-là, c'est que on l'a souvent entendu. On l'a peut-être souvent vu, mais il y a une discrimination qui est faite, notamment cette fameuse CMU. C'est-à-dire, certains vont dire oui, mais
ça, c'est au niveau de l'argent, puisque le CMU.
Exactement, voilà. C'est une discrimination, on est d'accord.
Ça en est une autre, exactement.
C'est une discrimination, et on nous dit oui, mais vu qu'ils ont la CMU, du coup, pour le médecin, c'est pas si rentable que ça, et puis c'est prioritaire, et puis ça crée des divisions. On sait que les personnes d'origine étrangère ou en situation de handicap, d'ailleurs, on recevra la semaine prochaine l'association Andy Sud Basket, qui viendra nous parler du handicap, notamment dans le sport. Ils étaient en Coupe d'Europe, là, en finale. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant. On parlera de handicap. Et c'est l'objet, quand même, de discrimination dans l'accès aux soins et dans leur parcours médical. Et ce rapport-là, c'est un rapport du Défenseur des droits qui a été publié hier. Donc, et on nous dit, je cite, « Si les refus d'accès aux soins restent la forme la plus connue et manifeste, les discriminations peuvent survenir à toutes les étapes de la prise en charge et de façon moins visible ou consciente au sein de la relation soignant-soigné. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une discrimination? On a vécu, pour certains, dans des hôpitaux quelques jours, quelques semaines, d'autres quelques mois. Donc on a vu aussi le travail formidable et remarquable qui est quand même fait dans les hôpitaux. Il faut absolument pas discriminer.
Oui, il faut pas généraliser.
Il faut pas généraliser et dénigrer. Je sais que Richard en connaît un rayon là-dessus. Il en demeure pas moins qu'il y a certaines discriminations qui posent un vrai problème. Et si la défenseure des droits pose ce problème-là, qui est rattaché quand même au gouvernement, c'est que forcément, ce respect-là n'est pas toujours respecté et n'est pas toujours analysé avec bienveillance. Ton avis là-dessus, Richard, avant de parler des différentes plaintes qui ont eu lieu devant les ordres professionnels de l'assurance maladie.
Alors, oui, effectivement, on peut dire qu'il y a une... ça se réduit un petit peu au niveau des prestations, voilà. De notre côté, il y a des traitements qui deviennent de plus en plus chers, qui sont quand même pratiqués. On voit quand même beaucoup d'étrangers venir se soigner en France. Il y a peut-être une raison aussi, hein, c'est que peut-être nos soins ne sont pas si mauvais que ça, hein, vu le nombre de gens que... Bon, il y a des débats...
Ou peut-être qu'ils sont déplorables chez eux.
Je sais pas... Quel est le pays qui serait supérieur à la France au niveau de la santé? Si vous en trouvez, dites-le-moi. En attendant, on a un niveau de santé, bien sûr, qui se détériore, mais c'est une question d'argent. Les budgets sont très serrés. Les prestations contre le cancer, etc., coûtent de plus en plus cher. Il y a des médicaments, sachez qu'il y a des médicaments qui coûtent 5 000 € la boîte, vous voyez, et pourtant... On l'assure pour ses patients.
Et Richard, il y a un élément important, ce que tu évoques, c'est que tu dis que ces médicaments coûtent très cher. Mais ces médicaments, là aussi, il y a un lobbying de l'industrie pharmaceutique qui profite aussi de la situation. Il faut pas se leurrer. Hein, il y a des gros lobbyings dans l'industrie pharmaceutique qui augmentent les prix et qui profitent de la situation et qui sont là pour faire du business et de la rentabilité aux dépens des soins.
C'est un grand débat. C'est un grand débat et un équilibre à trouver, parce que ces laboratoires, ils font de la recherche qui n'est pas forcément assurée d'un résultat. Et quand ils en trouvent des résultats, évidemment, ils profitent de bénéfices. Ils ont des endroits où ils font des recherches et puis c'est flop et ils ont perdu de l'argent. On va pas pleurer sur eux parce que vraiment...
Après, on peut comprendre aussi le système financier.
Il faut comprendre le processus. Hein, on l'a dans la chanson avec les droits d'auteur, vous voyez. C'est pareil. Les droits d'auteur, ça protège. Mais quand le gars réussit, il se gave. Hein, voilà. Alors, on l'a dans beaucoup de domaines. Et on critique toujours ça. Alors, sachez que... en France, vous voyez, on essaie de recruter les chercheurs américains qui sont détestés là-bas ou bannis parce que la recherche ne rapporte soi-disant rien, vous voyez, ou pas. Donc la recherche, c'est un progrès. Et voilà, il faut pas oublier le positif de la chose. Maintenant, il y a peut-être des régulations à faire, ça, il faut être OK.
Christian.
Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Quand on réussit, on gagne. Quand on échoue, on perd.
Il faudrait pas que ça soit
des philanthropes. Hein.
Il faudrait pas que ça soit au détriment du soigné. Et ça, c'est ce qui pose un vrai problème. On rappelle qu'il y a eu 224 plaintes qui ont été déposées devant les ordres professionnels et l'assurance maladie. 31 réclamations ont été renvoyées à la défenseure des droits et que l'ampleur des discriminations dans le parcours des soins dépasse largement. Et on le rappelle, une discrimination, elle n'est pas uniquement liée. Elle est sous différentes formes. La discrimination du handicap, la discrimination de l'origine, la discrimination aussi sur d'autres éléments, hommes, femmes, le refus de prise en charge. Et ça, c'est un vrai problème, Christian.
Exactement. Ça, c'est à différentes étapes de la prise en charge qu'on peut voir cette discrimination. Par exemple, ça peut être conscient ou inconscient. C'est rien que dans la relation soignant. Patient, peut-être déjà on va avoir une relation peut-être plus amicale avec certains parce qu'il est comme ça et autres parce qu'il est autrement. Donc ça peut se révéler tout le long du parcours de soins, c'est-à-dire en passant d'entrée. Par exemple, si on va aux urgences, on peut être accueilli d'une certaine façon en fonction de nos critères et d'une autre façon si on n'est pas dans des critères qui est acceptable par ceux qui nous accueillent. Alors, il ne faut pas généraliser, hein, on l'a bien vu, c'est vraiment l'exception, mais ça existe et ça ne devrait pas exister dans un métier comme le soin, parce que le soin, normalement, qu'on a dit, ça doit, ça s'adresse à tout le monde.
C'est universel.
C'est universel.
Ça doit être universel, le son.
Alors, on a parlé aussi des médicaments qui valent très cher. Certainement, on sait que les bénéfices énormes que font les compagnies qui fabriquent les médicaments, mais il faut rappeler aussi que finalement, ils obtiennent souvent des subventions publiques pour faire leurs recherches. Et ça, ils oublient de le dire. C'est pas que des fonds
tout
privés.
À fait,
c'est-à-dire, il y a aussi le public qui met la main à la poche pour les aider. Et donc, normalement, ça doit revenir aussi au public. Et ça doit revenir d'une façon, par exemple, dans le prix des médicaments. Quand il y a des prix des médicaments qui sont exorbitants, bon, peut-être c'est très rare, ça arrive, comme tu l'as dit, Richard, mais il y a aussi des prix qui sont gonflés, tout simplement parce que c'est pour le profit. Alors, ce que la santé devait être rentrée dans le profit, ça, c'est une question philosophique. C'est-à-dire, finalement, peut-être tout ce qui dépend de la santé devrait rentrer dans un domaine public et ne devrait pas avoir attaché à une forme de profit ou de bénéfice. Malheureusement, on est dans un monde qui ne tourne pas de cette façon et tout est marchandé. Et la santé aussi, c'est une question de marchandisation. Et malheureusement, comme tu l'as dit, sur certains, on peut avoir droit aux soins, d'autres ne peuvent pas avoir droit aux soins en fonction de leurs ressources. Ce qui n'est pas le cas en France, comme on le sait bien, mais ça se retrouve dans de nombreux pays qu'on ne nommera pas à l'antenne, mais vous les connaissez
tous. Oui, il y en aurait trop.
Et en tout cas, pour ceux qui sont attachés à notre territoire hexagonal, sur le système de santé, on le rappelle, notamment pour soigner les enfants, pour soigner nos aînés, pour soigner des maladies graves, des maladies qui ont évidemment des incidences au quotidien. Rappelez-vous, on a reçu à plusieurs reprises des associations, on a fait plusieurs éclairages sur ce genre de situation-là.
On voit dans les maladies rares, par exemple, comme on récolte des fonds par le public, par exemple le Téléthon, c'est tout simplement parce qu'on a besoin d'argent pour la recherche, et ça, c'est des fonds publics qui viennent.
Exactement, et d'ailleurs.
Le cancer aussi, il y a beaucoup de choses.
Hein. Exactement.
Ça veut dire que financièrement, aucun État n'a les moyens de faire ça. Hein.
On est d'accord avec
énorme,
ça. Non, mais ce qui est quand même plutôt contraignant, c'est que on a une recrudescence de ces discriminations, mais on a surtout un système de santé qui est en train de régresser. Et je le répète, on a un très bon système de santé et on doit être, en tout cas, protecteur de ce système-là et on doit être fier d'en profiter. Ça, c'est une évidence. Mais on est en train de perdre des acquis, on est en train de perdre des privilèges, on a des augmentations à droite et à gauche, et ça c'est un vrai problème, non pas pour nous à ce jour, mais pour les générations à venir et les décennies à venir. C'est là où le bât blesse, et c'est là où en tout cas, on doit avoir une conscientisation de la chose pour comprendre qu'aujourd'hui, le système de santé qui est quand même qui a été introduit depuis 1945, donc on parle plus depuis 80 ans, il est en régression, et ces derniers temps, que ce soit les lanceurs d'alerte ou autres, posent le problème et estiment aujourd'hui qu'on est en train de perdre ses privilèges. Vous savez, c'est comme les syndicats, on en parle aujourd'hui avec les grèves à la SNCF, où ils nous disent « Ah mais nous les cheminots, on avait tel ou tel acquis, aujourd'hui on veut nous lever telle ou telle prime ». Ben, en fait, ils ont quand même raison de se battre pour conserver ce qu'ils ont acquis précédemment. Et pourtant, certains diront « Oui, mais c'est pas normal, ce sont des privilèges, c'est de la noblesse. » Toujours est-il qu'on a un système de santé qui est l'un des plus performants au monde, mais qui, d'année en année, est en train de perdre de sa superbe. Et ça, c'est un vrai problème. Messieurs, pour conclure sur ce dossier-là, Richard, sans te faire offense, tu as plus d'expérience que nous. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on soigne mieux qu'avant, avec aussi une avancée, parce qu'on a quand même des cerveaux en France qui fonctionnent très bien, et on a aussi la fuite des cerveaux, on a des spécialistes qui partent aussi à l'étranger, parce que ils sont pas dans de bonnes conditions aussi pour soigner, et ils sont un peu compressés en étant à l'usine. Ça aussi, on l'entend, Richard.
Oui, bien sûr. Les chercheurs qui partent, bien souvent, c'est avec des appels d'offres où leur salaire est multiplié par 2 ou 3.
C'est le nerf de la guerre.
Ça pourrait être même 4 ou 6 si on veut.
Oui, si c'est pas plus, bien sûr. Donc, ils s'en vont pour des raisons très simples. Après, des structures, voilà. Mais moi, je voudrais dire un mot sur le service de la liberté des droits. Je pense que ce sont des organismes qui auraient intérêt à réfléchir et à se réorganiser dans les sociétés modernes. je pense que les droits acquis il y a 30 ou 40 ans doivent suivre une évolution comme tout suit une évolution. Et on a l'impression que c'est figé, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, je dis pas que c'est pas bien, je dis que il manque, à mon avis, de se réformer un petit peu et de réfléchir. Voilà, à mon avis.
C'est une vision un peu plus dure, et peut-être.
C'est pas plus dur, c'est réaliste par rapport à tout le monde.
Non, mais c'est respectable.
Quand on voit un salarié aujourd'hui, un salarié, il va faire 5, 6, 10 métiers. Avant, il faisait un métier. Donc l'individu, il va se réformer. Il va essayer d'avancer dans une société qui bouge. Tout bouge. Et eux, j'ai l'impression qu'ils sont très statiques. Et que c'est comme ça et pas autrement. Alors je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas une bonne vision, mais il faudrait qu'il y ait... Voilà, à mon avis... C'est trop figé.
Richard, on respecte ta vision. Moi, je voulais parler d'une discrimination, par exemple, entre le public et le privé.
Tout à fait, Richard.
Oui, parce que finalement, on sait bien qu'il y a une compétition. Enfin, il n'y a pas une compétition. C'est-à-dire que le public est en train de s'amoindrir. On voit de nombreux médecins qui sont en train de s'écrier, de s'alarmer, justement, sur les conditions de travail dans le public avec une situation, une pénurie d'infirmières, par exemple, ou des médecins qui se suicident. Il y a le suicide des soignants, on en parle peu ou très peu, mais malheureusement, il existe. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont dans un burn-out, c'est-à-dire que finalement, ils sont tellement surchargés de travail avec très peu de possibilités de remplacement ou de liberté de manœuvre dans leur planning, ben ils en arrivent et ils peuvent pas abandonner leurs patients parce qu'un soignant, ben il abandonne jamais son patient. Si on lui dit de faire une heure supplémentaire, il peut pas laisser quitter son service et abandonner les malades. Et il se retrouve dans des situations dramatiques où souvent il y a des gens qui se suicident ou qui se mettent en arrêt maladie tout simplement parce qu'ils ont des troubles psychologiques. Suite à une pression sur le travail qui est énorme, et ça, on oublie de le dire. Alors maintenant, c'est le public. Est-ce que dans le privé, c'est mieux ? Je ne pense pas que c'est mieux dans le privé, mais
non,
souvent...
Christian, il y a un élément important, je me permets de te couper, qui est très intéressant, c'est qu'on le dit souvent, le public et le privé, on l'oppose même pour l'école.
C'est-à-dire que l'école, c'est encore une autre histoire, mais c'est vrai, on l'oppose,
non, mais,
bien sûr.
C'est-à-dire qu'on dit, pour les professeurs, en allant dans le privé, vous allez gagner plus.
Non, ils gagneront pas plus, mais on sait surtout pour les enfants. Donc on dit, allez, en allant dans le privé, vous, par exemple, pour les grèves, il y aura peut-être moins de grèves ou il y aura peut-être moins d'enfants par classe. C'est des choses qu'on dit, je ne sais pas si c'est exact.
Oui. Non, mais c'est
voilà.
C'est
mais gagner plus, vrai, mais... ça m'étonnerait qu'ils gagnent plus dans le privé que dans le public.
Alors une certitude,
à vérifier.
Ça, je te l'affirme, les professeurs du privé gagnent plus que les professeurs du public. C'est une évidence, avec d'autres conditions.
S'il y a des professeurs qui nous écoutent,
oui, bon, après,
téléphoner.
Je pense que tu n'as pas la mémoire courte et qu'on en a souvent parlé sur les ondes de Radio Galère et que les professeurs l'ont assez dit. Alors évidemment, la fourchette se réduit d'année en année. Mais il n'en demeure pas moins que quand tu parles des hôpitaux, quand tu parles de la santé, un salarié et un médecin fonctionnaire de l'hôpital public va toucher évidemment... 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois moins que celui qui sera en libéral. Donc on oppose, c'est ce que disait Richard tout à l'heure, le nerf de la guerre, c'est aussi la finance et l'argent. Et malheureusement,
bien sûr, c'est la finance et l'argent.
Et évidemment, et c'est ce qui fait, on peut avoir vocation, avoir une sensibilité humaine quand on sort de l'école, quand on sort de la faculté de médecine, et se dire, non mais moi je veux œuvrer pour l'utilité publique, pour l'utilité commune, je veux servir mon pays, je veux servir mes patients, sauf que à l'hôpital aujourd'hui, les conditions ne sont plus réunies pour qu'un médecin il ait cet optimisme de pouvoir œuvrer, de pouvoir soigner, puisqu'on sait qu'il est compressé, qu'il va manquer de moyens humains, de moyens matériels, de moyens financiers, qu'il va faire des horaires colossales. Donc forcément, ça pose un vrai problème. Alors en libéral, attention, on travaille certainement plus, mais par contre, on gagne plus. Et là aussi... cet aspect financier-là, il a une incidence.
Exactement. Juste une question.
Oui, et Richard, juste derrière.
Après, voilà. Je dis, il y a aussi une autre discrimination, c'est la discrimination de l'endroit où on est en France. Parce que si on est dans un désert médical ou si on est à Marseille, ben on ne va pas être soigné pareil. Parce qu'à Marseille, c'est sûr qu'on va trouver un médecin assez facilement parce qu'il y a pléthore de médecins. Par exemple, si on est dans une autre région... française où il y a
et
beaucoup moins
de médecins. Et encore qu'on galère quand même de temps en temps pour des spécialistes, si vous voulez aller voir voilà. Aujourd'hui. Non, mais c'est important.
Selon les spécialités,
un allergologue, moi je vous le dis, vous avez 6 mois d'attente.
Je suis l'acteur. Alors 6 mois d'attente sur Marseille, imaginez quelqu'un qui est dans une région comme l'Isère ou autre, où c'est des déserts médicaux, ben dans ces cas-là, ils sont obligés de venir à Marseille ou à Paris ou autre truc pour tout simplement pour faire un IRM. Ça, c'est aussi une discrimination en fonction du lieu où on habite.
Tout à fait.
Ça veut dire que les discriminations, il y en a plein finalement, si on commence à jeter un coup d'œil là-dessus.
Exactement. Richard, pour conclure sur ce dossier-là, qui mène en tout cas le débat sur les ondes de Radio Galère.
Richard, il est accablé.
Moi, j'entends toujours dire les mêmes choses, c'est-à-dire il y a un manque d'argent, ils gagnent plus, etc. C'est pour ça que les organisations font qu'il y a trop d'heures, mal fait, etc. Bon, voilà. Moi, ça m'agace un peu. Moi, je pense que, en plus de ça, et surtout, il y a un irrespect du public. Cet irrespect du public, où on voit que les gens de la santé sont agressés par le public, où on voit dans les pompiers, les policiers, les professeurs. Je pense que ça joue énormément sur leur... et qu'on oublie cet aspect qui paraît essentiel. Je pense que tant qu'on n'aura pas pris la mesure de respecter ces gens qui sont là pour servir, voilà, ce sera très compliqué. C'est tout pour moi.
Mais tu fais bien de l'évoquer. 8h32 sur les ondes de Radio Galère. On est toujours en direct avec Christian, Richard, Anthony au micro. On vous rappelle qu'évidemment, le standard ne fonctionne pas depuis quelques petits mois. On espère que nos techniciens trouveront la faille, évidemment, puisque je sais que vous êtes pas mal à nous solliciter pour me demander justement de tout simplement intervenir à l'antenne. On espère que ça se fasse prochainement. Un mot rapidement avant de parler en 7-8 minutes de l'aspect international, juste pour vous dire que sur le volet national, il y a une augmentation, je cite, alarmante des actes, notamment sur l'antisémitisme. Début de l'examen de loi, c'est un grand dossier qui est en train de se mettre en place contre l'antisémitisme dans l'enseignement supérieur. C'est une proposition de loi pour lutter justement dans ce sens-là, qui a été adoptée à l'unanimité du Sénat. Ça a démarré hier à l'Assemblée nationale, les députés affichant d'emblée leur désaccord sur la question du mécanisme de sanctions envisagé par rapport donc à l'antisémitisme. Je cite « Pas un seul étudiant ne doit hésiter à se rendre en cours parce qu'il craint d'être exposé à l'antisémitisme ». Voilà ce qu'a martelé en ouverture des débats Philippe Baptiste, vous le savez, qui est désormais le ministre de l'enseignement supérieur. Donc on devra rendre obligatoire la mise en place de référents. Il y a un texte qui a été porté par Horizon, par le groupe macroniste Ensemble pour la République. La gauche dénonce des mesures liberticides. Bon, toujours est-il que vous le savez, ces derniers temps, sans faire transition avec Gaza et la Palestine, mais évidemment la discrimination et l'antisémitisme est un élément qu'on ne doit pas occulter. Moi, je suis pas là pour dire que c'est un phénomène global et répétitif. Je suis convaincu qu'en France, quand même, on a ce respect-là, mais que de temps en temps, il y a des discriminations, qu'il y a cette sensibilisation sur laquelle on doit être, évidemment, à l'écoute. Voilà. Du coup, on y va, mon cher Christian et Richard, avec le dernier volet de la bande de Gaza, et notamment le volet international sur la guerre au Proche-Orient, Christian.
Eh oui,
il nous reste 5 petites minutes.
Voilà, la guerre prochaine, enfin, on pourrait plutôt dire le bombardement au Proche-Orient, parce que c'est des bombardements consécutifs. Et de guerre, bon, il n'y en a pas vraiment, parce que ceux qui sont bombardés n'ont pas vraiment les moyens de se défendre. Alors, il y a un plan qui a été fait par le gouvernement israélien. On rappelle, c'est un gouvernement qui est d'extrême droite en ce moment en Israël. Et c'est un plan qui a été fait pour occuper tout à fait la bande de Gaza. Donc, il y a un rappel de tous les réservistes en ce moment en Israël, de façon à avoir une armée assez conséquente pour pouvoir pénétrer dans la bande de Gaza et l'occuper entièrement. Alors, on sait bien qu'il y a aussi derrière tout ça le sujet d'occuper la bande de Gaza et se l'approprier, parce que c'est un conflit territorial, il faut le rappeler. Hein, c'est simplement un conflit territorial et avec en toile de fond le fait qu'une non-reconnaissance de l'État palestinien qui devrait être fait depuis X temps, mais malheureusement les États hésitent ou n'ont pas le courage de se prononcer, bien que certains l'ont fait. Et donc, on se retrouve dans une situation dramatique. On sait que la population de Gaza, il y a plus de 30 000 ou 40 000 morts, dont la majorité des enfants et des enfants, sous les bombardements. Une nouvelle étape est en train de se mettre en route avec cette occupation généralisée. Je ne sais pas, on sait que la majorité des Israéliens commencent déjà à se poser des questions sur ce gouvernement. On est en train de manifester justement contre ce gouvernement d'extrême droite en disant que finalement il faut arrêter cette guerre, ces bombardements qui ne mènent à rien, parce que bombarder et tuer des gens, ça n'a jamais amené la paix. Ça peut qu'amener des ressentiments et de la colère. Donc espérons que la population israélienne va réagir et faire tomber ce gouvernement d'ultra-droite qui est à leur tête et qui les mène finalement au désastre et au désastre aussi d'autres populations.
Et évidemment, on rappelle que des innocents meurent chaque
C'est
jour.
C'est toujours les innocents qui payent.
Exactement, des enfants. Ce plan a été voté à l'unanimité par le cabinet qui réunit les ministres du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Ça implique aussi le déplacement des fameux Gazaouis, la majorité des Gazaouis qui a déjà été...
Le plan de Trump qui voudrait les faire partir à ne sais où pour faire une riviera tout à fait absurde.
C'est un plan qui existe. C'est déjà par Netanyahou,
avant. C'était dans le tiroir des gosses.
Si c'était la journée du rire, on pourrait en rire, parce que sincèrement, c'est un rire jaune, bien entendu.
Bien sûr.
Hein, mais franchement, enlever toute la population pour faire autre chose, c'est pas quelque chose de joyeux.
On est bien d'accord avec ça et on parle quand même d'une catastrophe humanitaire, un risque de famine auquel quand même sont exposés près de 2,4 millions de Palestiniens. Donc c'est quelque chose de colossal, de problématique. Et quand on dit que l'idéologie principale et le point d'achoppement principal entre la Palestine et Gaza, c'est la religion, c'est complètement faux, c'est erroné. Qu'il y ait une mini-partie, ou en tout cas une incidence, peut-être, mais elle est infime. Ce n'est pas la religion qui doit traiter la chose, et on ne peut pas prendre en otage des enfants, des familles, des femmes, des hommes, en otage cette situation-là, alors qu'on le sait, et Richard l'a si bien dit précédemment, sur cette fameuse Riviera, qui au final existait par le passé. Et ce que Trump est en train de mettre en place pose un vrai problème d'ordre éthique, Christian, d'ordre moral, messieurs.
Ben oui, on a parlé souvent de... Il y a eu un rapport d'Amnesty International qui a qui a conclu à un génocide, ce qui est en train de se passer. Donc toutes ces mesures, ça rentre vitalement d'éradiquer un peuple d'une région. Un des critères du génocide. Donc finalement, c'est tout à fait aberrant. Je ne sais pas comment la communauté internationale peut supporter ça, parce qu'on rappelle que la communauté internationale, sauf les instances de l'ONU et autres instances internationales, reste passif face à cette situation. Et ça, c'est le plus dramatique, parce qu'on entend quelques échos, on décide de faire un petit éclairage de temps en temps sur ce qui se passe sur Gaza, mais finalement, les gouvernements, pour le moment, se taisent. Et une des meilleures façons de faire, peut-être, de réagir à cela, c'est de se mettre d'accord pour créer une solution à deux États, c'est-à-dire un État israélien, un État palestinien. Ça finira par arriver, mais malheureusement, il y aura des milliers de morts avant que cela arrive, comme toujours. Hein, c'est l'absurdité des guerres qui se répètent.
Oui, et puis voire même l'Inde et le Pakistan qui se mettent en guerre aujourd'hui. Enfin bref.
Pour un conflit territorial aussi.
Les amis, aujourd'hui, oubliez tout, c'est la journée du rire, parce que quand on voit tout ça, on est vraiment désespérés.
Voilà. On va peut-être passer à une petite pause musicale, Anthony.
Exactement.
Pour égayer un peu cette matinée.
Pause musicale sur les ondes de Radio Galère. Il est 8h40. On vous l'avait annoncé précédemment. On est en train avec Fabrice Aubert, justement, de préparer. Alors, l'émission est préparée depuis un moment. Mais on va justement évoquer libre-échange avec notre Fabrice Aubert qui est avec nous.
Les guerres commerciales, on va en faire avec. C'est les guerres commerciales, c'est ça.
Libre-échange sur les ondes du 88.4.
On va voir ce qu'il va nous raconter.
On va parler de ce paramètre-là. Vous verrez, il y a beaucoup de choses à dire, avec évidemment une analyse toujours aussi accrocheuse et pertinente sur les ondes du 88.4. Kassav, Zouklacel, médicament mou, ça c'est quelque chose qu'on m'était, rappelle-toi Christian, à une époque, et je suis retombé dessus, un peu de Zouk sur les ondes du 88.4, ça va pas faire de mal, avec la journée du rire, eh ben on va s'enjailler justement, mon cher Richard. Pause musicale sur les ondes de Galère, on revient avec Fabrice Aubert.
Thank you.
Radio Galère, 88.4, nous reprenons le cours de notre émission. C'était donc Cassave, ça fait du bien de s'enjailler cette musique, évidemment, du Zouk, le groupe Cassave, qu'on ne présente plus, qui reste un groupe incontournable, évidemment. Vous êtes toujours en direct sur les ondes du 88.4 avec Anthony, Christian, Richard et désormais Fabrice Aubert, notre déconomiste qui va être avec nous pendant près de 40 minutes sur les ondes du 88.4 pour nous parler notamment du libre-échange. On va évoquer et décrypter cette notion-là. Avant ça, bonjour à toi Fabrice, bienvenue évidemment sur les ondes de Galère.
Bonjour, bonjour à Radio Galère, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. Et j'espère que tout va bien pour eux parce que dehors, c'est mal, hein. c'est pas la joie.
Comme dirait l'autre, dehors il fait froid. Voilà, c'est une métaphore qui est révélatrice du contexte peut-être anxiogène sur le plan social et politique. En tout cas, c'est la vie et le ressenti de Fabrice Aubert. Vous le savez, tous les premiers mercredis de chaque mois, sur les ondes de Galère, de 8h45 à 9h25, c'est donc Fabrice Aubert qui nous cible un sujet. Donc, vous le savez, ce sont des sujets souvent controversés, à tendance géopolitique, sur des sujets qui ont une incidence sur le plan national et souvent l'Europe, mais aussi les États-Unis. Aujourd'hui, on va parler du libre-échange français, du libre-échange américain. On fera même une analogie avec la Chine. Pourquoi ce thème-là, Fabrice, aujourd'hui, ce choix de ce thème-là, libre-échange ?
Bah, parce que le libre-échange, ça fait partie des théories économiques qui existent. Donc, ce sont des choses qu'il faut voir. Et puis, par rapport à la conjoncture, c'est par rapport aux décisions qu'a pris Trump aux États-Unis et qui, quelque part, remet en cause le libre-échange. Mais on va y venir. Je voudrais commencer lentement. D'abord, comme tu le sais, pour chaque émission, j'ai la sentence du jour. C'est peut-être le jour du rire, mais...
C'est le jour du rire, oui.
C'est...
On peut rire de tout, hein.
Oui. Ouais, bah, j'arrive à rigoler de l'économie, parfois. Mais par les temps qui courent, ça devient difficile, je le reconnais. En fait, c'est une sentence...
Et pourtant, gardons cet espoir.
Oui, c'est une sentence d'Anatole France. Bah oui, c'est pas un communiste, Anatole France, mais voilà ce qu'il dit. « Après s'être soustrait à l'autorité des rois et des empereurs, après avoir proclamé trois fois sa liberté, la France est soumise à des compagnies financières qui dispose des richesses du pays et par le moyen d'une presse achetée dirige l'opinion. » 1908.
Très actuel, hein.
Franchement.
Ouais. C'est un visionnaire, ce.
Il analyse. Il analyse en 1908 ce que tu retrouves aujourd'hui. Mais j'aurais
rien n'a changé, c'est ce que tu veux dire,
voilà,
aussi. Voilà.
Mais j'aurais pu te citer Marx, mais comme je veux pas. En permanence le citait.
On censure Marx.
Donc, tu vois, on rigole quand même. Bon, donc voilà.
C'est la journée du rire, on le rappelle.
Mais il est clair que ce que tu as lu là, c'est une constante.
Oui.
C'est une constante dans tous les pays du monde. Hein. On voit, enfin, puisque c'est un libre-échange, hein, on voit quand même que le but de chacun de ces grands messieurs de pays... Hein, n'est pas le peuple, c'est de s'enrichir. On voit que tous, sans exception, quel pays que ce soit, font des fortunes personnelles. Et non, le peuple, il s'en fout, en fait. Quand Trump, par exemple, dit « Oh, ben, ils achèteront une baguette de moins pendant le temps que ça revienne comme avant », il pense pas aux gens qui n'arrivent pas à manger, quoi. Hein.
Oui, mais je partage pas ton opinion sur la généralisation.
C'est pour ça qu'on échange.
Excessive.
C'est pour ça que c'est le libre-échange.
Tu prends des présidents d'Amérique du Sud, de gauche à radical, ils se sont pas enrichis. Et ils ont essayé au contraire de rendre au peuple tout ce qu'ils pouvaient. Ce qui explique d'ailleurs qu'ils ont une bonne image de marque. Tu prends Lula au Brésil, il s'est pas enrichi. On lui a fait un procès d'enrichissement et qui s'est révélé faux, ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire la justice en douce, cachée, etc. etc. Donc après, je suis d'accord avec toi sur, comment on peut dire, les grands dirigeants du monde. Mais tu vois, même Poutine, il rentre pas dans cette catégorie.
Ben, je suis pas tout sûr, moi.
Attends, mais tout ce qui est dit sur lui en termes d'enrichissement est faux. Et je te le dis parce que j'ai lu. Et je me suis documenté. Alors, je sais, dans les médias, on te dit, on te parle de son château. C'est pas son château. C'est
à
pas
qui,
son château.
À qui est ce château, tiens, alors?
Mais il est à l'État russe.
Et qui c'est, l'État russe, c'est lui?
Non, mais c'est comme si tu dis que l'Élysée appartient à Macron. L'Élysée
est-ce
appartient
que parfois,
à la nation.
Je sais pas si on peut faire la comparaison.
Est-ce que parfois on peut faire ces raccourcis-là de par la suprématie? Je finis ma phrase.
On va laisser Poutine et tranquille. On va
Christian, continuer. Juste, je... parce qu'il faut qu'on arrive à s'entendre. Sur la suprématie, sur la puissance de Poutine, ça rime souvent quand même avec cette opulence, cette maîtrise. Est-ce que c'est quand même un raccourci qu'on peut comprendre, Christian?
Je suis pas poutinien, c'est pas mon ami politique, mais contrairement à tout ce qui est raconté, il suffit d'aller sur la fiche Wikipédia de Poutine. Quand Poutine prend ou arrive au pouvoir, comme vous voulez, je m'en fous. En 2001, la Russie est dans une situation catastrophique. Taux de mortalité infantile, alcoolisme, drogue,
le chaos
absolu. Et c'est la conséquence, à la fois du 1989, de l'implosion du mur de Berlin,
il a développé le gaz et le pétrole aussi.
Et d'Eltsin, qui privatise et qui constitue ce qu'on appelle les oligarques. Parce que Poutine fait la chasse aux oligarques. Certains ont fui à l'étranger.
Pas tous les oligarques.
Non, attends.
Certains.
Non, mais il en recrée certains.
Voilà.
C'est incontestable.
Mais
cela, mais te dire, quand Poutine demande quelque chose aux chefs d'entreprise, ils ferment leur gueule et ils font. Tu comprends?
Ils n'ont pas le choix.
Oui, mais c'est du capitalisme d'État. Vous comprenez ça? En France, Macron...
Fabrice, est-ce
quand...
que cette notion de capitalisme d'État, il a du sens pour des gens qui seraient potentiellement de gauche ou potentiellement de droite, avec notre vision, nous, de citoyens français?
Parce non, mais...
On peut pas dire que Poutine, ça respire quand même la souplesse et le partage social.
J'ai pas dit ça.
Non, bien sûr, j'en suis convaincu.
Je dis que depuis... Par contre, j'affirme, et ça, allez voir la fiche Wikipédia, c'est écrit... Depuis qu'il est au pouvoir, les Russes ont socialement progressé dans tous les domaines. Tous. Salaire, emploi, retraite.
Pouvoir d'achat, niveau de vie,
pauvreté, taux de mortalité disparu. Hein, il a un problème.
Enfin, disparu, non, tu veux dire. Réduit, oui.
Enfin, en France, le taux de mortalité des enfants a augmenté. Il est à 4,1%. Après être baissé jusqu'à moins de 3. Donc, et on est maintenant 25e sur 27e en termes de taux de mortalité
tout
infantile.
Tout à fait, on l'a dit sur les
Donc,
zones de
santé. On a parlé de la santé tout à l'heure. Oui.
C'est une honte, une honte absolue. Personne ne le sait, personne n'en parle. Hein.
On le dit, nous, sur les zones de galère, tu vois, Fabrice.
Très bien.
C'est bien de le dire.
Mais il faut le rappeler. Donc, si tu veux, moi, après, je regarde des données. Je ne peux pas faire autre chose que ça. Et je dis... Poutine, pour partie, il a essayé de régler des problèmes qui étaient posés aux Russes. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs dans des sondages réels et occidentaux. 80% de la population russe soutient la politique de Poutine. Pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il a réglé les problèmes concrets auxquels les gens étaient confrontés.
Et peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut le rappeler aussi.
Bah, c'est mais difficile tu crois que t'as le choix en France? Tu veux que je te raconte les médias?
Non, mais bon. C'est plus difficile.
Alors, c'est plus...
Mais on va passer
c'est un autre
au libre-échange. On va laisser Poutine de côté.
Oui, on va passer au libre-échange.
Tu as intronisé libre-échange, les matérialités du désastre.
Voilà. Oui.
L'idéologie du libre-échange. C'est quoi aujourd'hui
alors,
le libre-échange? Décrypte-nous cette notion, Fabrice.
Partons de la définition. Facebook, hein? Pas Facebook, Google. Donc, je ne peux pas faire mieux en termes de neutralité, entre guillemets. Hein. Le libre-échange est un principe visant à favoriser le développement du commerce international en supprimant les barrières nationales tarifaires et non tarifaires susceptibles de restreindre l'importation des biens et des services. Tout est dit. En fait, il s'agit de casser les frontières, les ouvrir... pour faire en sorte que tous les produits de l'étranger viennent chez toi. Donc en fait, le libre-échange casse même la notion de l'État.
Parce avec que, si un intérêt veux, financier, Fabrice, on est bien d'accord.
C'est l'intérêt financier pour qui ?
Ah, peut-être pour celui qui met en place le libre-échange, celui qui veut ouvrir les frontières.
Alors là, je suis d'accord, mais parce qu'on a fait le chantage aux gens en leur disant « Avec le libre-échange, vous allez voir, on va importer des produits qui seront moins chers pour vous. » En fait, dans la réalité, c'est faux. Pourquoi ? Parce que moins c'est cher, plus ça nous coûte.
Tiens, ça c'est une bonne notion, ça. Moins c'est cher, plus ça nous coûte. J'aimerais bien savoir, moi.
Quand tu fabriques une télévision en France... Bah après, une télévision, tu vois, c'est le produit...
A priori, il y en a très peu.
Mais il n'y en a plus.
Il n'y en a plus.
Mais avant, Thomson fabriquait les télévisions en France.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Il y avait les puces Thomson aussi à Rousset.
Absolument. Mm-mm. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que tu as une usine, des ouvriers qui sont payés au salaire ouvrier et pas les salariés précaires de l'entretien des ménages. Hein ? Tu as des techniciens, tu as des chercheurs parce qu'il faut chercher... pour faire des nouveaux téléviseurs. Et tout ça, non seulement il y a les salaires, mais il y a les cotisations sociales qui te financent
la sécurité,
la santé, les retraites, les politiques familiales, etc., etc. Alors, c'est plus cher. Individuellement, c'est plus cher. Mais collectivement, tu t'y retrouves. Tu n'as pas de chômage, tu n'as pas de précarité.
Tu as une
meilleure capacités de financement... Tu n'es plus en déficit social pour la sécurité sociale, etc., etc. Tu casses l'usine et à la place, tu importes des produits qui ne payent pas de cotisations sociales, qui ne payent pas d'impôts. Qu'est-ce que tu génères ? Du chômage, de la précarité, de la pauvreté, l'obligation de l'État de subvenir au minimum, ça crée le RSA, régime sec pour animaux. Hein ? Et en plus... Ça te pèse sur la valeur de ta monnaie puisque c'est de l'importation, donc ça génère un déficit. Et ce déficit, du fait de tous les coûts sociaux que ça a généré, du fait du chômage et tout ça, qu'est-ce que ça fait ? Ben, ça génère de la dette. Parce que l'État est obligé de financer au minimum pour que les gens rentrent pas en révolte, en révolution, comme en 1830, 1848, 1871. Je veux dire, voilà. Donc, si tu veux, le libre-échange, c'est une guerre sociale menée chez toi. Alors, apparemment, il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de fusils, il n'y a pas de chars. Mais les conséquences, c'est la destruction sociale du pays.
Bon, mais ce libre-échange, de la façon dont tu viens de dire, c'est les grandes firmes qui ont instauré ça.
Absolument.
C'était leur intérêt de faire ça, ça leur apportait plus d'argent.
Non, mais les États...
Même pas les États
ont accompagné et voulu.
Voilà, mais c'est les multinationales. Les multinationales, on sait le rapport de force qu'il y a entre l'État et les multinationales. Et les multinationales sont gagnants par rapport sur ce rapport de force.
Mais si tu veux, tu peux. Alors là, par contre, la Chine, je peux te dire que c'est aussi du capitalisme d'État comme en Russie. C'est-à-dire où... Alors, t'as des capitalistes en Chine, c'est clair.
Sous contrôle.
Voilà, c'est-à-dire que t'as intérêt...
Ah oui, extrêmement contrôlé, ouais.
Quand le parti te dit, voilà, votre objectif, c'est de produire tant là-dedans, t'as intérêt à le faire, hein. Sinon, t'es zigouillé.
Ouais, on parle pas de démocratie, on parle pas de libre-échange, on parle d'une mise sous tutelle, enfin voilà, une sorte de...
Non, c'est du capitalisme d'État autoritaire.
Ouais, voilà. Mais
c'est pas le rêve, hein, on est bien d'accord.
Mais j'ai pas dit que c'était le rêve.
Absolument pas.
Mais je dis, la Chine... Regarde, mais il faut reprendre l'histoire. Là, c'est très important. Pourquoi ? Alors, d'abord, rappelons-nous les Grecs, le commerce grec en Méditerranée. Est-ce que c'était du libre-échange ?
Alors, au vu de ta question oratoire, j'ai l'impression que
non. Mais bon, non. À mon avis, non.
Non. D'abord, ça n'existait pas. Ricardo, qui a été le concepteur du libre-échange, qui est un économiste écossais, il est venu bien après. Bon. Dans les années 1800, quelque chose. Bon. Et c'est là où a été développé le début de la théorie du libre-échange par Ricardo, et qui disait qu'il fallait que chaque pays se spécialise dans un domaine donné. Par exemple, il prenait le Portugal et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne devait abandonner la production de vin, le Portugal prenait la production de vin, et l'Angleterre prenait la production de draps. Et les échanges se faisaient entre draps et vin.
C'est le fameux donnant-donnant aussi.
Non ! Pourquoi donnant-donnant ? Il y a un exploité là-dedans. Tu imagines que tu fais plus de fric dans le vin ou dans le drap ?
On est d'accord.
Hein, tu te couches comment ? T'as plus besoin de quoi ? De vin ou de drap ?
Bah pour certains, la question est vite trouvée. Pour d'autres, elle paraît plus plausible, plus réaliste.
Et puis
le reste,
ça fait rire, c'est la journée.
C'est la journée du rire, utilisons-la.
Mais bon, c'était la comparaison qu'il faisait.
Suivez mon regard.
C'était la comparaison qu'il faisait. Et on était dans de beaux draps, pour le coup.
Libre-échange, bon, c'est pas très bon, en fait, si j'ai bien compris ce que tu dis, mais quel est le bon
système,
alors ?
Non, mais attends, je reviens sur l'histoire. Oui. Donc, les Grecs, c'était pas du libre-échange. À la limite, c'était de l'échange égal. On pouvait parler d'échange équitable. Et d'ailleurs, jamais la Grèce...
Commerce équitable, ça existe, voilà, on en parle, cette notion-là.
Mais je vais y revenir.
Il nous reste 20 minutes, hein ?
Ouais. Donc, 23. Donc, il faut que j'accélère. Donc, les Grecs... C'était du commerce à la limite équitable, et d'ailleurs, observe qu'ils n'ont jamais généré un empire grec. Ils ont seulement fait la guerre à Troie, parce que Troie était un port qui concurrençait les ports grecs. Mais sinon, à Marseille, c'était un comptoir. On appelait ça les comptoirs commerciaux. C'est tout. Ils n'allaient pas plus loin. Par contre, ils échangeaient dans toute la Méditerranée. Et selon une logique simple, c'est-à-dire les Grecs prenaient ce qu'ils savaient faire, ils allaient l'amener par navire dans les ports où il y avait des comptoirs commerciaux et ils ramenaient chez eux ce qu'ils ne faisaient pas. Donc c'était de l'échange égal, voire équitable. Hein, on pourra en discuter longtemps. Bon, mais alors là, on va sauter. Hein. On va sauter très large parce qu'il faut tomber sur la Seconde Guerre mondiale. Parce que c'est là où ça commence à déconner. Enfin, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour empêcher le retour des guerres, a été créée l'ONU et toute une série d'organisations internationales, dont l'ONU pour la paix, mais a été créée aussi le FMI, Fonds monétaire international, pour le financement, la Banque mondiale, qui était l'outil du FMI pour permettre le financement des pays en voie de développement, comme on disait à l'époque, hein, et tu avais des tas de. Et tu avais non pas l'OMC, OMC veut dire Organisation Mondiale du Commerce, mais le GATT. Le GATT, c'était General Agreement on Tariffs and Trades. C'est-à-dire qu'il y avait un accord général pour installer des droits de douane aux frontières qui, tout en permettant les échanges, ne détruisaient pas les pays. C'est ça, le GATT. C'est ça, le GATT. C'est-à-dire, si tu veux, ce qu'on appelle les droits de douane, c'est l'État aux frontières. Et d'ailleurs, ce sont les douaniers qui vérifie ça. Il a fallu la guerre du Vietnam...
Sous la tutelle de l'État, évidemment, la douane.
Oui, Et il a fallu la guerre du Vietnam, qui a généré un premier déficit commercial américain et une première dette publique, pour que, sous Nixon, soit abandonné le système de Bretton Woods, c'est pas la première fois que j'en parle, hein, et où on est passé d'une monnaie à taux de change fixe
avec
à des monnaies... Avec ramener à l'or, bien sûr, à des changes flexibles et faisant de la monnaie des marchandises comme les autres.
Et justement, tu parles de la dette publique. Est-ce que ça représente, parce qu'on l'entend souvent, la dette publique, elle est colossale. On parle des déficits. En fait, c'est l'écart, et tu le dis si bien, entre les besoins publics. On l'évoquait tout à l'heure avec Christian et Richard sur cette même antenne. La santé, l'éducation, les retraites. Et les recettes publiques qui sont en permanence, en baisse. Oui. Donc c'est la concurrence mondialisée qui oblige à ça. Non. Est-ce qu'on peut dire que ça cumule les déficits publics ?
Enfin, oui.
La dette est quand même bien présente.
Le déficit commercial génère une partie de la dette. Excusez-moi.
Je t'en prie, c'est les aléas du direct.
Le rapport entre déficit commercial... Et dette publique, comme je vous l'ai envoyé dans le dossier qui s'appelle Libre-échange, les matérialités du désastre, tu mets les courbes côte à côte et tu vois bien le rapport direct entre l'augmentation du déficit commercial et la hausse des déficits publics américains. Bon. Mais en France, nous sommes dans la même logique en termes de commerce extérieur, pas parce que il y a la concurrence internationale, mais parce que nous avons fait le choix délibéré depuis Mitterrand en 1983, le changement de politique, l'austérité, le combat contre l'inflation, l'abandon des nationalisations, l'ouverture au libre-échange. Tiens, regarde, les autoroutes, pourquoi tu les payes ? Tu ne devrais plus les payer. Tu devrais plus les payer, ça, c'est un
dossier,
scandale.
C'est un dossier qu'on évoque souvent.
Voilà,
hein.
Mais ils viennent d'en parler encore, mais on a donné ça aux multinationales qui se font du fric. 10% de rentabilité. D'accord ? Regarde si ton salaire il augmente de 10%.
Je confirme que non.
Donc, 10% de rentabilité par an. Hein. Pas.
Là, tu fais appel à. Tu cibles Vinci, tu cibles
bien
tous
sûr.
Ces groupes. Voilà.
Qui s'occupent aussi des médias.
Oui.
Donc, à la fois, je maîtrise les profits et je maîtrise le support de communication qui va masquer les problèmes, qui va masquer mes profits. Pour que surtout le système soit pas remis en cause. Et dans le même temps, j'attaque Mélenchon à tue-tête parce qu'il est antisémite, parce que c'est un gourou. Tu vois, comme il peut être gourou avec moi, je te le dis. Hein. C'est mal parti. Donc, après, en 71, donc, il y a la crise du système de Bretton Woods. Et en 72, on oublie. Mais Nixon va en Chine.
Puis après, on a les chocs pétroliers en 73.
M'en fous. Le choc pétrolier est une conséquence de 71, pas une cause.
Oui, mais il y a quand même une incidence.
Non,
bah, selon toi.
J'y reviens. 72 visites de Nixon en Chine. Et là, il y a une phrase extraordinaire, je vous l'ai déjà envoyée. Mais Nixon dit, c'est le plus grand voyage commercial que j'ai jamais fait au monde. Derrière la reconnaissance politique de la Chine, parce que c'est ça qui était en jeu, puisque c'était Taïwan qui était reconnu à l'ONU. Taïwan est viré et c'est la Chine populaire communiste qui est reconnue à l'ONU. Ça, c'est le deal qu'on met en avant. Mais le vrai deal qui a été fait entre Mao Tse-tung communiste et Nixon, président capitaliste américain, ça a été d'accepter que la Chine joue le rôle de back-office industriel pour les États-Unis. Et ce qui fait que les Nike sont conçus à New York, fabriqués en Chine
et
réimportés.
Et revendus aux États-Unis.
Voilà. Et alors, ils ont commencé par les baskets.
Ça, on est
et
d'accord
les
que le circuit il est loin d'être court et qu'il est loin d'être écolo, évidemment.
Voilà, je te dis pas. En plus, mais la réalité, c'est celle-là. C'est un accord politique, commercial. Je vous reconnais et vous acceptez de jouer le rôle de sous-traitant industriel de l'empire américain. C'était ça la logique. Et aujourd'hui, les Chinois, ils te font des smartphones. Et ils envoient des fusées dans l'espace parce qu'ils sont passés des ombrelles. Rappelle-toi comment on se foutait de leur gueule quand on disait « made in China », ce qui voulait dire que ça ne tenait pas. Et c'était la réalité. Mais aujourd'hui...
Ou « made in Taiwan » aussi maintenant.
Voilà. Mais les smartphones sont faits en Chine. Et ils sont meilleurs que les smartphones américains.
Et moins chers.
Et moins chers.
Oui, parce que c'est aussi ça le nerf de la guerre. Hein.
Alors, rappelez-vous qu'il y a un certain Jean-Jacques Servan-Schreiber, tu vois, comme il est communiste, qui a écrit un livre qui s'appelle « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». Mais c'est nous qui avons donné à manger au tigre, puisque la Chine est représentée en termes d'animal sous la forme du tigre. Mais c'est nous qui leur avons donné à manger. Puisque nous avons cassé toutes nos industries productives, qui non seulement permettaient l'emploi, mais permettaient le financement de la santé et tout le reste. Et nous l'avons donné aux Chinois. Même, regarde, la pharmacologie, les médicaments ont été vendus aux Chinois.
Mais c'est une bonne chose aussi, parce que ça a permis au peuple chinois de se développer,
bah,
d'améliorer sa santé,
non,
d'améliorer son niveau de vie.
Mais non, parce que, regarde...
Certainement aussi, parce qu'ils partaient de très loin.
Mais attends, que l'on fasse sur les questions de santé,
entre autres,
accords de coopération entre les pays, pour développer des médicaments. Cuba, par exemple, est connu pas pour son armée, mais pour ses médecins qui vont partout. On est d'accord ou pas ?
On est d'accord.
Complètement.
Voilà. Donc ça, tu peux le mettre en œuvre dès demain. Alors qu'en France, tu manques de médecins. Il y a ce qu'on appelle les zones...
Désertiques.
Les zones désertiques en santé. Les médicaments, tu les as plus.
Les déserts médicaux, pour être précis.
Les déserts médicaux. Merci de la précision. Tu vois, toi, on est presque autant que moi. On rigole un peu.
Journée du rire, Fabrice, n'oublions pas.
Donc voilà,
merci,
si
Richard.
Tu veux, le libre-échange, c'est une catastrophe pour les peuples, pour tous les peuples. Parce qu'au début, tu peux dire, oui, mais les peuples sous-développés, ils vont profiter. Ouais. Non, mais la réalité, c'est que le taux de pauvreté dans le monde... n'a pas tant reculé que ça. Alors,
il a quand même reculé, il faut être honnête.
Mais c'est lamentable de dire ça.
Oui,
ils sont passés de quoi ? $2 le jour à $3 ?
Il a quand même reculé, c'est déjà pas
voilà.
mal.
Alors, par pure hypocrisie, on a... alors, les États-Unis, je vais pas continuer, parce que Trump, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Trump, il se rend compte que le libre-échange a détruit son pays, et comme... Parce que ça, on le sait pas, mais il a fait l'une des plus hautes universités américaines en finance. Bon, et donc, il connaît un peu. Il a vu l'état de son pays. Et il a dit, le libre-échange, c'est une catastrophe pour mon pays. Je peux plus développer l'industrie. Il y a de la pauvreté, de la drogue dans les quartiers. Tu vois, San Francisco, dans les rues. Mais c'est junkie.
Et pas que.
Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est le retour de l'État aux frontières. C'est ça, les droits de douane. C'est pas autre chose que ça. Donc, quand Trump est dénoncé alors qu'il a raison sur l'analyse, là où il a tort, c'est la violence avec laquelle il s'y prend. Quand tu augmentes du jour au lendemain des droits de douane de 140%, évidemment, c'est débile.
Alors là, c'est juste pour faire référence à ce que fait récemment Trump, vous savez, de taxer notamment pour les vins, pour la Chine, pour l'Europe, pour la France, qui pose un vrai problème sur la sphère mondiale. 9h12 sur les ondes de Radio Galère. Il nous reste un petit quart d'heure, une douzaine de minutes avec Fabrice Aubert sur la trame du libre-échange. Et on rappelle qu'après l'émission de Fabrice Aubert, on recevra l'école de la deuxième chance qui sera avec nous pour nous parler notamment aussi de différents projets au cœur des jeunes. Voilà, Fabrice, une douzaine de minutes et on souhaite que tu ailles au bout de ton analyse avec notamment des réactions, peut-être Richard aussi, qu'on n'a pas entendu depuis le début.
Juste un petit mot de ma réflexion personnelle. Bon, Trump, on dit il est fou, il a augmenté 140%, machin, etc. Non, il n'est pas fou. Sa fortune a été multipliée par 2 ou par 3. Il sait quand il faut acheter bas, il sait qu'il faut vendre haut. Ses amis oligarques aussi, ils s'enrichissent. Si les pauvres dans le monde deviennent de plus en plus pauvres, eux, ils deviennent de plus en plus riches et dans des proportions excessives. Pourquoi ? Parce que c'est un savoir. Ils n'ont pas compris le système de Trump. C'est lui qui regarde. Le reste, il s'en fout. Sa fortune a été augmentée dans des proportions anormales. Voilà, ça c'est la vérité. Ma vérité, attendez, parce que moi j'ai
non,
pas
mais,
les glaciers.
Alors, mais je discute pas, c'est peut-être possible, j'ai pas vérifié. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas le résultat qu'a fait Trump dans le cas de cette logique, voire qu'il a. On a même dit qu'il y avait délit d'initié, c'est-à-dire il a informé des amis de ce qui allait se passer et qu'ils ont profité. Puisqu'en théorie, l'information doit être la même pour tout le monde. Bon, s'il a informé, bon, voilà, il y a délit d'initié. OK. Mais non, moi, ce que je vois, c'est le raisonnement qui est mené. Et par contre, il a déjà perdu. Parce que vis-à-vis de la Chine, il était obligé de s'écraser.
Il ne peut pas lutter.
Pourquoi il ne peut pas lutter ? C'est pourquoi ? Parce que
le rapport de force n'est pas
l'intelligence
le même.
Chinoise.
Et le rapport de force.
Des politiques chinois, hein, que ce soit Mao Tse-Tung et tous ceux qui ont suivi, parce qu'on les prend pour des cons, mais sont des dirigeants. Faut arrêter de prendre tout le monde pour des cons, tu vois, parce que Poutine, on l'a pris pour un con, un fou, un malade. Bon, enfin, passons. L'intelligence des dirigeants, ça a été quoi ? Ça a été de dire, puisque les États-Unis s'endettent pour nous acheter des biens de consommation, il faut savoir que chez nous, c'est 35% de ce que tu consommes vient de l'extérieur. Tu vois le niveau de dépendance. Et après, on vient de parler de souveraineté. Mais de souveraineté à ce niveau-là, il n'y en a plus. Hein.
Mais est-ce que parler de souveraineté, ce n'est pas aussi une imbécilité ? Parce que quel pays, peut être,
conditions, oui.
quel pays peut être souverain dans un monde qui est interdépendant ?
C'est quand même intéressant ce que dit Christian.
C'est une totale absurdité de penser qu'on peut être indépendant, souverain dans un monde qui est entièrement interdépendant. Selon moi. Hein.
Mais
tu peux me prouver le contraire.
Voilà, mais tu pars de l'instant T. Tu oublies que la dépendance qui a été construite a été le produit de 30 ans de politique commerciale, d'ouverture, de libre-échange, de baisse des droits de douane, de destruction des lois, de l'Union européenne. Parce que je te rappelle que la définition, l'objectif de l'Union européenne, c'est réaliser un marché libre et non faussé. Hein, c'est ça, l'objectif politique.
Ce sont des notions peut-être un peu illusoires, un peu...
Mais c'était écrit dans le cadre de la Constitution qu'on aurait dû voter et qu'on a refusé, rejeté. Et alors, comme on l'a refusé par la porte, ils nous l'ont mis dans le cul par la fenêtre.
Hein, on va éviter la vulgarité, mon cher Fabrice, sur les ondes du 88.4.
C'est pas vulgaire, c'est...
Ça fait rire un peu.
C'est la journée du rire. Voilà. Il nous reste une dizaine de minutes, Fabrice.
Mais alors, tu vois, tu m'as coupé, je sais plus où j'en étais.
Je t'ai coupé le souffle.
Ce que fait Trump, c'est qu'il remet l'État aux frontières. Et tout le monde tombe dessus, mais il a raison. Il faut que l'État, la nation, retrouve justement sa souveraineté. Alors parlons de souveraineté. La souveraineté industrielle, c'est quand au moins tu arrives à faire en sorte que ta population consomme 80% des produits que tu fais. Ça ne veut pas dire que tu es autarcique. L'autarcie, ça n'existe pas.
C'est impossible.
Je te l'accorde.
On est d'accord.
Mais on ne peut pas reproduire des téléviseurs en France.
Ouais.
On ne peut pas produire des smartphones.
Est-ce qu'on peut avoir l'énergie pour
on
les
peut
produire
pas... Oui, bien sûr, on a l'énergie la moins chère au monde.
Ah, tu parles c'est de... parce que... Tu parles de l'atome. Mais même les centrales atomiques ont besoin d'uranium. L'uranium, il n'y a pas d'uranium en France, tu le sais.
Alors, c'est vrai, sauf qu'on avait...
Je ne vais pas te
On avait une filière...
Il faut le faire venir,
oui.
L'uranium.
Mais d'abord, la consommation d'uranium pour les centrales nucléaires...
Ah, c'est intéressant.
Est très faible. Est très faible.
Mais ils en ont besoin.
Mais on avait surtout une filière française qui s'appelait le surgénérateur. C'est-à-dire où les déchets produits devenaient des nouveaux matériaux pour faire en sorte que le cycle
ça
du combustible...
Ça ne fonctionne pas.
Non, ça a été un choix politique d'arrêter.
En tout cas, ça ne fonctionne pas.
Ça a été un choix politique d'arrêter.
Peut-être, mais ça fonctionne
alors,
pas.
Et tu sais pourquoi l'énergie électrique a augmenté en France, dans notre pays? Mais pour une raison simple, c'est qu'on a accepté que ce soit l'Allemagne qui fixe les prix de l'électricité du fait que l'Allemagne dépendait du gaz.
Russe,
donc on a
du gaz russe
dans un premier temps.
Tout l'Europe dépend du gaz russe, d'ailleurs, qui arrive toujours en Europe, on le
rappelle.
Non,
tu as aussi du gaz
d'Algérie. Oui, je suis d'accord, mais dans la plus grosse partie, c'est du gaz russe.
Voilà, allez, à 80%.
On rappelle que malgré l'embargo, il arrive toujours.
Absolument, mais
on est bien
pas sous la même forme.
Pas sous la forme, mais il arrive
quand
même.
Il vient pas sous l'éoduc, il vient sous bateau.
Il arrive quand même parce qu'il y a des accords qui sont
faits.
C'est
débile, mais bon, c'est hypocrite. Mais regarde que ce qui est lamentable, c'est qu'on a vendu... Alors là, on a ouvert culotte aux Allemands, pour que les Allemands soient maîtres de l'énergie, puisque ça, on l'a traité l'autre fois. Pour qu'il y ait une industrie solide, il faut que tu aies deux choses, matière première et énergie. L'Allemagne n'a pas d'énergie à fermer les centrales nucléaires, parce qu'elle a tout misé sur le gaz russe pas cher.
Et le charbon?
Non, le charbon, ils devaient abandonner. Ils l'ont réouvert parce que, n'ayant plus de gaz. Bon, mais voilà la réalité. Donc tu t'es vendu aux Allemands. Et tu as fait payer les Français des cours de l'électricité plus chers que la réalité du prix de production. Ça, c'est la réalité.
Non, mais parce que la France aussi comptait sur ce gaz bon marché venu de Russie. Il n'y a pas que l'Allemagne qui comptait là-dessus. Tout l'Europe compte.
Oui, mais pas
tout
pour,
le monde
pas,
bénéficiait
pas
de
pour
ça.
Notre énergie.
Si, parce que même avec l'énergie atomique, il y a pas assez pour faire pour
produire. Il y a combien de centrales?
Même si,
il y a combien
y a 53,
de centrales en France?
53, 57.
Non, mais là, tu parles des centrales nucléaires. Mais oui. Des centrales qui marchent au gaz en France, il y en a combien?
Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Tiens le chiffre.
Je pense qu'il y en a qu'une.
Voilà. Mais en tout cas, on se sert du gaz tous les jours.
Il y en a peut-être deux.
On se sert du gaz tous les jours pour faire cuire, par exemple, ces œufs plats ou autre chose.
C'est ridicule. Ça.
Non, le chauffage aussi. C'est pas ridicule.
Mais c'est en train d'être transformé.
Oui,
les gens sont en train d'abandonner les chaudières au fioul et au gaz pour passer à autre chose, à l'électrique. D'ailleurs, je vais te dire, on pourrait, en termes de service public, et ça c'est facile à faire, si on revenait à la logique PTT de l'époque pour le téléphone, pour l'électricité, on pourrait proposer à EDF la mission suivante. Partout où il est possible d'avoir une énergie captée par le soleil, EDF a la mission d'installer partout, avec entretien, les panneaux solaires, que les gens... Alors, on ne vend plus de l'électricité EDF, parce qu'aujourd'hui, quand tu mets des panneaux solaires, en fait, EDF te rachète l'électricité que tu produis. C'est débile. Parce que c'est de la marchandisation, individualisation. Ce qu'il faut, c'est être collectif. C'est-à-dire, EDF utilise ta toiture pour récupérer de l'énergie du soleil. Et lorsque tes plaques comment on appelle ça, les plaques...
Les
plaques solaires, les panneaux solaires, sont usés au bout de 10 ou 20 ans, c'est rien.
Ils te les renouvellent.
Voilà. Et ça roule tout seul.
C'est une bonne idée à proposer.
Mais je l'ai fait. Mais c'est refusé. Parce que tu passes pas par le marché. Tu passes pas par la marchandisation. Donc tu peux pas faire de fric. C'est ça le problème. Et le libre-échange, c'est l'outil, le moyen, le bâton, le levier qui a permis de faire en sorte que partout il y ait marchandisation. Alors, je vais vous citer Marx, parce que ça doit être la fin.
Oui.
À votre avis, Marx, il est pour le libre-échange ou contre ?
Il est pour le libre-échange.
Oh !
Non ?
Non, pourquoi ?
Parce qu'il est marxiste. Marx est marxiste par définition, donc ouais, il est pour le libre-échange.
Ouais, pourquoi ?
Ah ça, je sais pas. Tiens, tu vas me l'expliquer. C'est toi le marxiste, c'est pas moi.
C'est incroyable. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Eh ben, je connais pas. Donc, j'attends.
Il va nous expliquer pourquoi Marx est pour le libre-échange.
Enfin, a priori, il peut être que contre le libre-échange, puisqu'il est pour le social. Si le libre-échange détruit le social, le réflexe marxiste, c'est de dire.
C'est quand même ouais, mais il a une vision plus grande, Marx. Il est il est pas réduit au marxisme tel qu'on en a fait jusqu'à présent.
Alors je vous le cite. Et parce qu'il a fait un livret qui s'appelle Sur le libre échange, très court, hein. Et tu le trouves gratuitement sur Internet. Donc si ça vous intéresse, allez-y. C'est pas compliqué. Mais en général, de nos jours, le système protecteur est conservateur, tandis que le système de libre échange est destructeur. Il parle de cette idée que le libre-échange est destructeur. Il dissout les anciennes nationalités et pousse à l'extrême l'antagonisme entre la bourgeoisie et le prolétariat. En un mot, le système de la liberté commerciale hâte la révolution sociale. C'est seulement dans ce sens révolutionnaire, messieurs, que je vote en faveur du libre-échange.
Ça pousse à la révolution, c'est ça.
Et comme c'est la journée du rire, faut en rigoler, parce que lui, tu sais pourquoi il est pour le libre-échange ? Il dit, ces pourritures de capitalistes, ils vont tellement tirer le truc que ça va
les
générer
détruire.
Une révolution.
Ça va les détruire.
Et ça va les détruire. Donc c'est magnifique. On connaît pas Marx, mais c'était un drôle de gus.
Mais alors, quelle est la mesure, alors puisqu'il y a plus de... Bon, le libre-échange n'est pas bon, d'accord. Mais quelle est la mesure ? Quelles sont les comment ça marche ?
Mais la mesure que proposent Mélenchon et les Insoumis, on appelle ça le protectionnisme solidaire. C'est-à-dire...
Explique-nous ça, tiens.
Alors, voilà. On va pays par pays, branche industrielle par branche industrielle, négocier des accords qui vont permettre de reproduire sur place tout ce qu'il est possible de produire sur place. Et en compensation, on travaille avec les pays avec lesquels on dit « bon, maintenant, on refait chez nous » pour équilibrer les échanges. Ça s'appelle le protectionnisme.
Pas idiot, hein ?
Ouais. Prendre Mélenchon pour un con, je te le dis.
Ah non, non. Mélenchon, vraiment, c'est vraiment un personnage de haute qualité. C'est pas ma tasse de thé, mais enfin... C'est un personnage de haute qualité. Il sait très bien ce qu'il fait. Vraiment, il a une très grande valeur. Et tout ce qu'il dit, est vraiment très fort. Et voilà, c'est quelqu'un qui...
Je partage.
C'est quelqu'un qui pèse dans son raisonnement. Bon, qu'on soit pour ou contre, bon, ça, c'est autre chose. Mais vraiment, c'est quelqu'un il a une très haute valeur, à mon avis.
Oui. Je suis d'accord. Vraiment. Et il faut savoir que cette question du protectionnisme solidaire est dans le programme depuis les premières élections qu'il a fait, c'est-à-dire 2012. Depuis 2012, tu as cette proposition dans le programme du protectionnisme solidaire. Et avec l'idée, si tu veux, nous, on ne va pas exploiter les autres. Ce n'est pas notre intérêt. On va juste essayer d'équilibrer les relations. Parce qu'il faut des relations d'équilibre.
Parfait.
Or, le capitalisme et le libre-échange produisent en permanence
le déséquilibre.
Du déséquilibre.
on va conclure, mon cher Fabrice. Et cette fois-ci, on va vraiment respecter le timing parce que le temps nous est compté. Je te laisse, comme d'habitude, là, le dernier mot pour conclure cette émission. On le rappelle, qui était ciblée sur le libre-échange sur les ondes du 88.4. Et juste après, donc, avec la pause musicale, on aura le plaisir de recevoir l'école de la deuxième chance, avec notamment sa directrice générale, Lila Sommet, accompagnée de Cédric Agnel, responsable de la filière restauration. Fabrice, pour conclure.
Oh bah, la pauvre, si elle m'a entendu.
On t'écoute.
Non, mais j'ai plus rien à dire. Il faut que les gens prennent en main leurs affaires. Sinon, ils continueront de subir le libre-échange et donc les destructions sociales afférentes.
Voilà qui est dit.
Voilà qui est dit, évidemment, sur les ondes du 88.4. Merci.
Merci, Fabrice.
Merci, Fabrice, d'avoir développé, évidemment,
de nous avoir éclairé, en plus, sur le libre-échange.
Oui.
Et évidemment. Christian, pour conclure, un petit souci technique, 30 secondes, je t'en prie, pour conclure.
Pour conclure, en tout cas, c'est une très bonne remarque que tu as montée sur le plan de Mélenchon avec sa... Rappelle-moi, c'est la...
Protectionnisme solidaire.
Je pense que tu devrais faire une émission là-dessus la prochaine fois, parce que, honnêtement, c'est une mesure que moi, je ne connaissais pas qu'il avait... Je n'ai pas lu son rapport, hein, ni son plan. Ça serait bien d'éclairer nos auditeurs sur le protectionnisme solidaire. C'est une démarche qui paraît assez intéressante.
C'est un sujet très complexe. Hein.
Complexe, mais tu es un économiste, tu vas nous éclairer. Ça intéressant.
En fait, tu passes de la concurrence à la coopération.
Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est exactement ce qu'il faut faire.
N'oublie pas que la concurrence, c'est la destruction de l'autre. La coopération, il n'y a pas de destruction. Hein.
C'est la destruction de l'autre. Et l'autre, c'est nous. Hein. Faut pas l'oublier.
Et l'autre, c'est nous.
Et l'autre, c'est nous. Anthony, pause musicale.
Merci. Fabrice, évidemment, quelques petits soucis techniques, on y vient. Tracy Chapman, sur les ondes du 88.4.
Ah,
superbe. Take a Revolution, évidemment, je te vois, splendide. Ouais. Take,
Revolution.
C'est même... Talking about a revolution.
Talking about.
Exactement, voilà. Je vois que tu en es ravi.
Et nous, on fait making.
Tout à fait. Allez, pause musicale. Merci à Fabrice.
Merci, Fabrice.
Et on enchaîne évidemment avec l'école de la deuxième chance. Juste après, Tracy Chapman. Merci, Fabrice. Et restez fidèles au 81.4. Juste après ça, évidemment, sur les ondes de galère. Voilà, quelques petits soucis. Ça arrive.
Don't you know? Talking about a revolution sounds whisper. Don't you know how? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a... Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a... Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, I said you better run, 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 run.
in the welfare lines, crying the doors of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution.
Tracy Chapman sur les ondes du 88.4 Radio Galère. Nous reprenons le cours de notre émission consacrée à l'actualité locale avec un éclairage spécial. On vous l'avait annoncé dès la semaine dernière et évidemment encore ce matin. On a le plaisir de recevoir l'école de la deuxième chance avec sa directrice générale Lila Sommet qui est avec nous, accompagnée de Cédric Agniel, responsable de la filière restauration. Toujours fidèle évidemment autour de cette table, Christian, Richard et Anthony au micro. Bonjour Lila Sommet, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous évidemment sur les ondes de Radio Galère. Et bonjour à Cédric Agniel, responsable de la filière restauration.
Bonjour, merci de nous accueillir.
Avec grand plaisir, on est ravis de vous accueillir. Et je remercie Lila qui a été extrêmement réactive, dynamique à l'idée de nous rejoindre et de mettre en avant évidemment cette structure-là. Je remercie également Barbara Bosquet qui a permis cette connexion qui nous permet d'avoir un réseau bien développé sur les ondes de Radio Galère et notamment avec différentes structures, différents entrepreneurs, différentes associations. D'ailleurs, la semaine prochaine, on recevra l'association Handi Sud Basket. On parlera du handicap et du sport et notamment du basket. Mais c'est également grâce à Barbara Bosquet qui a permis ces connexions-là. Nous, on connaît l'école de la deuxième chance, mais les auditeurs ou auditrices, pour ceux qui ignorent, et ça serait un grand tort de ne pas connaître le travail remarquable qui est effectué au sein de cette structure, on va donc développer et présenter cette école, qui s'appelle donc l'école de la deuxième chance. Il y a presque une notion philosophique, une notion optimiste, d'espoir en tout cas. Lila Sommet, vous êtes donc la directrice générale. Le mois prochain, vous allez être à la tête de l'école depuis quasiment... ça fera un an que vous êtes à la tête de cette école. Parlez-nous un petit peu de votre rôle, de votre fonction, et puis l'ADN, la structure de cette belle école. Puis on aura l'occasion d'écouter Cédric Agniel pour nous parler de la filière restauration, sachant que l'objectif aujourd'hui, c'est évidemment le jeune au sein du dispositif qui est au cœur des projets. Et vous verrez, les projets sont multiples, variés et surtout de qualité.
Alors, si vous me permettez, je vais juste un petit mot. J'étais à l'inauguration de l'école il y a 25 ans.
Génial.
Donc, la première école de la deuxième chance en France.
En Europe même.
Oui, c'est à Marseille.
Je n'ai pas allé au-delà, mais enfin oui.
En Europe.
Il faut dire que quand ça s'est ouvert, peu de personnes y croyaient vraiment. Il a fallu faire ses armes et faire ce qu'il fallait, quoi. Voilà, c'était un petit peu mon introduction parce que ça a été une je me souviens plus qui était le maire de l'époque parce que ça fait quand même très longtemps, mais ça a été Marseille encore en lumière.
Tout à fait.
Et maintenant une directrice qui a à peine 25 ans, donc vous vous rendez compte, quelle chance.
Oui. Venez de naître à cette époque, c'est ça?
Oh non, quand même pas.
merci pour ce retour, Richard. Ça permet de faire un éclairage positif sur cette belle structure, l'école de la deuxième chance, que vous avez donc récupérée, entre guillemets, vous êtes à la tête depuis près d'un an, Lila Sommet.
Tout à fait. C'est vrai que donc, l'école de Marseille a une place particulière, puisque comme vous l'avez souligné, c'est la première à avoir été ouverte en Europe, à avoir participé à la création du réseau des écoles de la deuxième chance, donc qui fédère aujourd'hui 52 écoles à travers le territoire national et territoire ultramarin, et 142 sites. Nous-mêmes, Marseille, nous sommes implantés sur trois sites, donc le siège qui est à Saint-Louis, dans le 15e arrondissement, un établissement secondaire dans le 9e boulevard Romain-Rolland et une antenne à Miramas. Notre mission, c'est d'accueillir des jeunes âgés de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, sortis du système scolaire et en cumul de vulnérabilité. On en accueille à peu près 1000 chaque année, donc on est quand même sur un flux conséquent. Les jeunes intègrent un parcours d'une durée moyenne de 5 à 6 mois. On est organisé en entrée-sortie permanente, donc avec des possibilités d'admission tous les 15 jours, vraiment pour permettre aux jeunes, au moment où ils sont prêts, au moment où ils se décident à saisir de nouvelles opportunités, de nous rejoindre.
Tous les 15 jours, c'est-à-dire tous les 15 jours, il y a possibilité d'être admis à l'école d'intégration.
C'est ça.
Ça, c'est important de le souligner, c'est-à-dire que finalement, ben, on n'attend pas la rentrée en septembre, truc, c'est tous les 15 jours, on a la possibilité.
Tout à fait.
Qu'est-ce qu'il faut faire la demande? Il faut taper à votre porte? Il faut envoyer un mail? Comment
alors,
ça se passe?
Alors, c'est très simple. On propose...
On veut tout savoir, évidemment, sur les démarches.
Oui, et puis nos auditeurs et auditrices aussi. Parce que
exactement, ils sont à l'écoute parce qu'on rappelle que vous formez, justement, vous le dites dans la présentation, les publics les plus éloignés de l'emploi et les accompagne vers cette fameuse insertion sociale, insertion citoyenne, j'ai envie de dire humaine, professionnelle. Et justement, vous répondez aussi aux enjeux de différents territoires et des entreprises et de la multiplicité aussi des compétences professionnelles. On aura l'occasion d'écouter tout à l'heure Cédric Agnel pour nous parler de la restauration, qui est un volet quand même extrêmement précieux et qui, en plus, on le sait, en France... On a besoin de cette manne-là, de cette main-d'œuvre-là et de cette compétence des arts et de la table. On aura l'occasion de l'évoquer. Donc, je me faisais un petit peu le complément de Christian, mais je vous en prie pour répondre à la question de Christian, évidemment, sur cet établissement.
Donc, en fait, pour nous rejoindre, c'est très simple. On propose des informations collectives tous les mercredis matins sur le site de Saint-Louis, le mardi sur le site de Romain Rolland. Les jeunes peuvent aussi se connecter sur notre site internet et s'inscrire directement ou récupérer un numéro de téléphone, appeler. Ils peuvent aussi se présenter spontanément. Et donc ensuite, nous, le principal critère, si je puis dire, pour les intégrer, c'est la motivation. Voilà. Ensuite, il faut une pièce d'identité ou un justificatif titre de séjour.
Pas besoin de bagages scolaires.
Absolument pas. Non. On est là justement.
Vous l'avez évoqué,
pour,
la motivation. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
C'est ça, la motivation, l'engagement à suivre un parcours, à être assidu, parce que si les jeunes ne sont pas là, on ne peut pas les accompagner. Donc ça, voilà, on les invite ensuite à être présents tous les jours. Et donc, ils sont pris en main par des équipes pluridisciplinaires. On a des formateurs, des chargés mission entreprise, des chargés mission parcours, qui sont le pendant de travailleurs sociaux pour l'accompagnement sur toute la levée des freins périphériques, toutes les difficultés qu'ils pourraient rencontrer, qui pourraient entraver leur parcours. Je le souligne également, on propose une solution d'hébergement, parce qu'on a malheureusement des jeunes qui se présentent à nous.
Et ça, on ne le sait pas. Moi, je l'ai su qu'en bossant les dossiers, qu'il y avait une solution d'hébergement pour vous dire que la trame est extrêmement complète et que justement, le dossier et le projet est complet.
Complètement. Et donc ça permet vraiment de sécuriser les jeunes, de faire en sorte que dans la semaine, ils puissent se concentrer sur leur parcours et ne plus avoir à se demander où je vais manger, où je vais dormir.
Combien de possibilités de logement vous avez sur chaque site?
Alors uniquement sur le site de Saint-Louis dans le 15e,
ouais.
24, sachant qu'on peut dédoubler la capacité.
D'accord, ça peut être la 48 alors.
C'est ça, tout à fait. Et donc on accompagne les jeunes sur tout projet professionnel visé, tout secteur d'activité. L'idée c'est vraiment de leur permettre de faire émerger un projet et ensuite de le tester dans le cadre d'immersion professionnelle, parce que c'est aussi la force de notre dispositif, de proposer une alternance, donc une immersion en entreprise toutes les 3 semaines. Pour développer leur employabilité, développer leur savoir-être et leur savoir-faire.
Et au niveau financier, tiens, justement, alors, parce qu'il faut en parler, hein, est-ce qu'il faut qu'ils payent quelque chose?
Absolument.
Est-ce qu'ils sont payés? Alors expliquez-nous.
Alors ils sont rémunérés, tous les jeunes qui
ils intègrent sont rémunérés. Voilà, ça, c'est
le
important
dispositif,
de le dire
c'est
aussi.
Important de le préciser. Donc bénéficient d'une allocation mensuelle à hauteur de 552 € par mois qui est versée par la région et qui leur permet de faire face à leurs dépenses quotidiennes, mais aussi de financer une carte de bus pour nous rejoindre justement tous les jours. En termes de financement, donc on est soutenu par l'État, la région, la ville de Marseille qui nous met à disposition des locaux et notamment le site de Saint-Louis qui est magnifique. On bénéficie de 4,5 hectares On est sur les anciens abattoirs de la ville. On a un grand parc arboré, des équipements sportifs pour que les jeunes justement puissent y épanouir. On a également des fonds, du Fonds social européen et une subvention du conseil départemental. Et chaque année, nous collectons la taxe d'apprentissage. Donc les entreprises qui souhaitent soutenir ces jeunes et les projets qu'on leur propose sont invitées à se rapprocher de nous pour nous verser la taxe.
N'hésitez pas.
Voilà, la collecte va bientôt commencer à la fin du mois. Et nous, ça nous permet vraiment justement d'enrichir l'offre de services globales qu'on peut proposer à ces jeunes qui sont très méritants, très courageux et voilà, qui ont malheureusement pour la plupart eu des parcours difficiles, faits de ruptures sociales, familiales, mais qui décident de nous rejoindre pour envisager de nouvelles perspectives.
Et justement, il faut garder cet espoir-là, évidemment. On va juste laisser la parole à Cédric Agnel, responsable de la filière restauration, et justement d'évoquer que le jeune est au centre du dispositif. Vous occupez de cette fonction depuis le mois de janvier, Cédric Agnel. Parle-nous un petit peu justement de cette projection et du fait justement que le jeune est au centre du dispositif et comment il est au sein de votre domaine de compétences, à savoir, j'allais dire, les arts et la table, la cuisine, la restauration et tout ce qui s'ensuit évidemment. Ah, et Richard derrière.
Moi, je suis arrivé depuis le mois de janvier et je connaissais déjà cette école, puisque il y a 25 ans en arrière, donc moi je commençais juste ma carrière. Et peut-être 15 ans en arrière, moi je venais déjà faire des extras pour des traiteurs événementiels. Il y avait énormément d'activités dans cette école.
Génial. N'hésitez pas à vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Voilà. Parfait.
Et donc moi, ma fonction, écoutez, c'est pour faire court, c'est simple, on a un plateau technique. Les jeunes ont la possibilité de se former à la pâtisserie, à la cuisine et à la restauration traditionnelle aussi. Et donc ça, c'est vraiment ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on a un outil de travail qui est assez unique. Et je vous invite à venir pour venir voir ça. On est en train de développer aussi un projet sur de la restauration événementielle. Vous savez que la restauration événementielle, c'est très gourmand en personnel. Et nous, on a ce site qui permet vraiment d'organiser des événements et de pouvoir former encore une fois nos jeunes là-dessus.
C'est-à-dire, on vous appelle, j'ai un événement, vous envoyez une équipe qui va tout faire pratiquement au niveau de la restauration.
Nous, aujourd'hui, on est capable de mettre en place, on est tous d'anciens professionnels dans l'encadrement, on est tous dans les formateurs et dans l'équipe qui est avec moi, on est tous d'anciens professionnels. On était sur le terrain, donc à des postes, des expériences différentes. Donc c'est ça aussi l'avantage pour les jeunes, c'est qu'on a cette double casquette à la fois de... On sait faire fonctionner des établissements, on a eu tous des expériences et ils sont avec nous, on les amène dans les conditions du réel, comme ça avec nous.
Et ça, c'est extrêmement intéressant, justement, ouais. Cédric Agnel. Parlez-nous un petit peu de la relation avec le jeune, parce qu'on le sent, vous êtes dans la transmission, vous êtes, évidemment, et Lila Sommé l'évoquait tout à l'heure, il y a un cadre, mais il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de transmission. Comment ces jeunes-là, qui sont parfois, j'aime pas le terme, mais vous allez me comprendre, en perdition, et viennent en tout cas chercher un second espoir, un tremplin, comment vous percevez ça, justement ?
Bah justement, moi j'ai envie de vous dire par la simplicité. Ces jeunes, ils ont besoin d'être inspirés en réalité, oui. Simplement. D'être inspirés, donc à travers nous ce qu'on a fait, à travers les stages qu'ils vont aller réaliser, puisque rapidement on les met en stage grâce à notre réseau, ils vont faire des stages et ils peuvent se retrouver. On travaille leur projet professionnel en fait, c'est ça. Voilà le...
Est-ce que vous faites des portes ouvertes quelquefois ?
Oui. On organise des portes ouvertes, on va bientôt en organiser une. D'ailleurs, on n'a pas encore arrêté la date, mais on ne manquera pas de vous l'indiquer.
Avec grand plaisir.
Justement pour que le grand public, les jeunes et leur entourage, mais également des entreprises, des prescripteurs, puissent venir à notre rencontre, visiter le site, rencontrer des jeunes, échanger avec les équipes pour bien comprendre ce qu'on fait. Et voilà, pour rebondir sur ce que vient de dire Cédric, par rapport à ces jeunes, effectivement, on travaille beaucoup tout ce qui est... estime de soi, confiance en soi, parce que c'est des jeunes malheureusement qui ont été confrontés à un certain nombre d'échecs. Pour d'autres, ça peut être des situations de discrimination et c'est important de leur dire « nous, on vous fait confiance et vous avez un beau potentiel qui ne tient qu'à vous de révéler. On est là pour vous aider à le faire. »
Est-ce qu'on sort de cette école avec une qualification qui est valable sur le marché ?
Alors, pas tout à fait, parce que nous, on va plutôt être sur de la pré-qualification.
préqualification.
Au sein de la filière que gère Cédric, voilà, en fait, on les prépare à devenir des pâtissiers, des cuisiniers, pour ensuite poursuivre, pour ceux qui le souhaitent, vers un contrat d'apprentissage ou une embauche directe. On développe aussi d'autres filières, par exemple une filière transport et logistique avec le soutien de la Fondation CMA-CGM. On a une filière autour des métiers de l'aéronautique où les jeunes construisent un ULM.
Génial.
Qu'on a pu tester et inaugurer en janvier dernier.
Génial.
Et on est bien atterri.
Ils ont pris des risques là.
Voilà. Mais ça a marché.
C'est ça l'espoir justement.
Voilà.
C'est ça,
bien sûr. On a également une filière autour des métiers du sport et de l'animation. On a eu une filière commerce, une filière de préparation aux différents métiers de l'uniforme, donc les différents corps d'armée, police, gendarmerie, etc. Et on travaille actuellement sur le développement d'une filière autour des métiers de la mer et de la transition énergétique.
Et des médias, alors, vous ne faites rien pour les métiers.
Je pense qu'ils font beaucoup.
C'est un terrain de stage pour vos jeunes.
Mais
ici.
Complètement.
Nous, on est prêts.
On échangeait avant d'arriver avec un de vos collègues qui nous expliquait qu'il pourrait peut-être venir présenter justement tous ces métiers au sein de l'école. Nous, ça serait très volontiers parce que c'est des métiers qui sont très attractifs pour les jeunes.
Ben oui, ils sont très attirés. Bon, ils sont prometteurs, mais à la fois, il y a aussi un peu une part de mythe derrière ces métiers. Mais bon. C'est bien.
Ça peut être de belles opportunités pour eux, donc bien volontiers si vous.
Nous, on peut offrir un terrain de stage pour vos jeunes, pour venir
ça serait
un peu
super.
Commenter l'actualité. Les micros sont ouverts, c'est une radio galère, c'est une radio
Merci
libre.
Beaucoup.
On aura l'occasion évidemment de l'évoquer. Juste un point, Cédric Agnel, vous évoquiez tout à l'heure ce plateau, vous évoquez la transmission. Aujourd'hui, on parle de près de 1000 stagiaires qui sont sur les trois sites. Donc on le rappelle, celui de Saint-Louis, celui de Romain Roland dans le 9e. Et Miramas, combien de jeunes passent par vos mains ou passent par vos collègues également et vous arrivez à les orienter et qu'ils aient cet appétit, sans faire de jeu de mots, pour la pâtisserie, la cuisine, la restauration, le management ou autre? Comment ça se passe concrètement en termes de... Est-ce qu'on arrive à quantifier
Pour vous donner un chiffre exact, là, comme ça je ne pourrais pas parce que je n'ai pas de chiffre, mais ça marche très bien puisque l'idée c'est qu'ils soient pris en main de suite dès leur arrivée. On travaille leur projet professionnel, leur CV, on voit ce qui les intéresse le plus, la pâtisserie, la cuisine. Et l'idée, c'est qu'ils aillent rapidement sur un stage, en fait. Donc oui, il y a cette roue qui se met en place et grâce à ces entrées permanentes aussi, on peut profiter d'un flux vraiment attractif de jeunes comme ça.
C'est que des Marseillais qui viennent ou c'est des gens qui viennent de toute région parce qu'ils sont attirés par ce qui se passe à Marseille?
Pour l'instant, j'ai vu que des Marseillais. Après, Lila va vous
répondre
précisément. Effectivement, ce ne sont que des Marseillais parce qu'on a une école par département. Donc en région PACA, il y en a 6. Donc nous, on est sur le département du 13.
Avec les trois écoles, donc.
Avec les trois écoles, tout à fait. Et donc, peut-être quand même quelques chiffres. Donc on a 60% de sorties positives, donc ce qui correspond à l'obtention d'un contrat de travail ou une entrée en formation qualifiante.
Ça, c'est génial.
On accueille chaque année à peu près 52% des jeunes issus des QPV, donc quartiers prioritaires de la ville. On est presque à parité avec 48% de jeunes femmes et 52% de jeunes hommes.
C'est important,
la parité, bien sûr. Tout à fait, c'est important. Et puis, on a une attention particulière vis-à-vis des jeunes filles parce qu'on sait qu'elles sont... parmi les publics dits invisibles, souvent les plus éloignés, les plus en difficulté pour rejoindre un parcours de formation ou professionnalisant.
Alors, c'est une école qui a 25 ans d'âge. Donc, vous avez forcément des élèves qui ont réussi dans leur vie. Est-ce que ils interviennent pour des réunions avec des nouveaux élèves? Est-ce qu'il y a un partage qui s'est établi?
Oui, complètement. On organise à plusieurs moments dans l'année donc des cérémonies donc qui permettent déjà de remettre une attestation de compétences acquises aux stagiaires en parcours ou qui ont finalisé leur parcours. Et ça nous permet de rappeler des anciens qui viennent témoigner de leur parcours, motiver ces jeunes qui sont plus nouveaux. Et ça a toujours beaucoup d'impact quand
ce sont
des jeunes qui parlent à d'autres jeunes.
C'est très important parce que quelquefois, pour les jeunes, ce n'est pas concret tout à fait. Et de voir des anciens qui arrivent donc en leur disant « voilà, moi j'ai fait ça, puis maintenant ça va bien, etc. » C'est très important. Et juste une question que j'avais aussi, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez quelque chose qui va se développer là-dedans?
Alors, on y réfléchit, tout à fait, mais de manière active.
On
ne
peut pas l'éviter maintenant.
D'ailleurs, la semaine dernière, on a eu la chance d'accueillir une matinale organisée par la DRETS sur ce sujet, l'IA, et donc on a pu intervenir et expliquer qu'on est justement en réflexion pour développer, en tout cas utiliser l'IA pour nous aider à développer de nouveaux contenus pédagogiques qui se répondent au plus près des besoins des stagiaires. Et à travers le réseau national, là pour le coup, il y a un nouveau logiciel de suivi des jeunes qui est en cours de déploiement et qui intègre des outils basés sur l'IA, notamment pour aider les jeunes à bénéficier de simulations d'entretien d'embauche ou
On sait que les jeunes, par essence, connaissent mieux les fonctionnements que les anciens et qui sont très intéressés par cette branche.
Ce qui fait la force aussi de l'école de deuxième chance, c'est que, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est que la palette est large. Vous n'avez pas ciblé uniquement des métiers sur lesquels, j'ai une bêtise, on aurait pu dire, le BTP, la sécurité, on sait qu'ils sont des métiers où il y a beaucoup, beaucoup de demandes qui sont difficiles. Et vous avez œuvré, vous parlez de transport, la restauration, évidemment, c'est un métier phare. Et Dieu sait si on a besoin, en tout cas, de ces métiers-là pour développer non seulement l'économie du pays, mais ensuite pour la transmission du savoir. On a quand même un savoir-faire qui est énorme en France. Il faut quand même jouer la carte.
La cuisine française, bien sûr, c'est la meilleure du monde, on est bien d'accord.
Oui. Exactement. Donc ça, c'est aussi la force de l'école de la deuxième chance. Il est 9h50 sur les ondes de Galère. Il nous reste 10 minutes, toujours en direct, avec donc l'école de la deuxième chance, Lila Sommet et Cédric Agnel. On a d'autres éléments avec... et puis n'hésitez pas, Cédric, si vous voulez compléter à un moment donné et donner votre avis là-dessus, sur les actualités et les événements à venir. Là aussi, il y a une énergie. Cédric, je vous en prie.
Justement, je me permets de rebondir à ce moment-là, puisque hier soir, vous voyez, on parlait de concret tout à l'heure. Hier soir, on était sur un dîner de gala avec un chef étoilé qui s'appelle Julien Diaz, que je remercie d'ailleurs de nous avoir accueillis. Donc, et nos jeunes se collent à ça. Vous voyez, pour faire court, voilà, nos jeunes étaient présents en salle, en cuisine. Et ils se retrouvent
à la criée.
C'est génial.
Et ils se retrouvent donc... Dans les conditions du réel, quoi. Donc là, je vous laisse imaginer que oui, ça, clairement, ils étaient inspirés, clairement, ils se projettent un peu plus sur le métier. Là, je vous dis, ces deux jeunes qui étaient là avec nous hier soir, on les a perdus à l'école.
Mais bravo, c'est
voilà, voilà
ça.
Voilà le genre d'événement qu'on essaye de créer. Voilà ce qui va être récurrent bientôt. En ce moment, on a Graines de pâtissier aussi. C'est un concours de pâtisserie qui est en partenariat avec Valrhona. Donc, on a 10 jeunes sur ce concours-là. Vous pouvez le noter dans vos agendas. Ça se passe, la finale, c'est le 24 juin à l'école.
24
de la
juin à l'école de Zemmes. Voilà. Et on a le droit de venir même si on n'est pas concerné ou pas?
Ça, vous voyez avec ma.
Vous serez le bienvenu, bien sûr.
On viendra manger la pâtisserie.
Vous pourrez goûter justement les gâteaux signatures des jeunes.
Richard est gourmand, il sera là.
Ça risque de nous intéresser fortement.
Ouais. Donc voilà, l'idée, c'est de réaliser une finale avec un concours, la présentation des chefs-d'œuvre des jeunes et surtout. Un entraînement semaine par semaine avec ces jeunes, parce que toutes les semaines on met à l'honneur un jeune en fait avec son chef-d'œuvre qui peut travailler au restaurant pédagogique, voilà, qui est ouvert du mardi au vendredi. Et donc ce restaurant, on peut réserver, on peut venir manger. Et encore une fois, c'est les jeunes qui...
Donc vous avez un restaurant sur place.
Absolument.
Où tout public peut venir.
Tout à fait, tout
voilà,
public.
C'est bien de le dire parce
que
beaucoup de gens ne le savent pas.
À des tarifs préférentiels.
Préférentiels.
Vous pouvez décrypter ce que ça veut dire, même si nous on le sait, un restaurant pédagogique.
Ah ben écoutez, un restaurant pédagogique, c'est avant tout un restaurant. Donc on a la responsabilité de le faire tourner comme un restaurant. Et la pédagogie, c'est parce que c'est nos jeunes. On travaille avec nos jeunes.
Ils apprennent en même temps qu'ils font, quoi. Là, c'est ça.
Absolument. Ils sont au centre de l'action. Hein. Donc ils sont à la fois sur la pâtisserie, la cuisine. C'est eux qui travaillent à la fois la carte, le service. Bien sûr, nous, avec notre expérience, on les accompagne, on les amène.
Vous avez une capacité de combien, ce restaurant, alors, de personnes?
Écoutez, si on travaille avec 20-25 couverts par jour, c'est magnifique.
C'est bien, voilà. Donc 20-25 couverts par jour. Et il faut y aller, c'est ouvert à tout public, on le rappelle, à des tarifs préférentiels. Donc allez-y, c'est ça.
Complètement, et on a également un self.
Un self aussi, oui.
Voilà, j'allais y venir. Donc le self, effectivement, Lila, où pareil, c'est ouvert au public, c'est une autre formule. Et ça permet de former nos jeunes à la restauration collective aussi, puisque c'est très bien. Vous savez, si un jeune... Enfin, il faut qu'il puisse se projeter dans tous les domaines. Voilà.
Également ouvert au grand public, le self. Alors là, pour le coup, très préférentiel, 8 euros, entrée, plat, dessert, et ouvert à Richard,
faut
ceux
que tu
qui
nous
le souhaitent.
Et voilà, Richard, on cherchait
un restaurant pas trop cher.
On cherchait un restaurant abordable.
Je veux le restaurant... Le top, là.
On pourra vous proposer les deux.
Les deux.
Hein, et puis je donnerai une note, parce que comme je suis un ancien traiteur, hein, bon.
La critique
est
constructive, avec plaisir.
C'est un professionnel.
La critique est constructive, voilà ce que dit Cédric.
Alors, pour joindre, donc vous faites le www.e2c-marseille.fr. Donc là-dessus, vous trouverez bien sûr tous les renseignements. Qui vous permettront de voir tous les métiers qui sont proposés, hein, parce que bon, là, on a parlé de ce qui se mange bien et bon, mais il y a aussi d'autres métiers selon les goûts.
Il y a tout un panel de métiers, tout à fait.
Et c'est important de le rappeler. Il nous reste 3 minutes.
Juste un dernier mot qui m'interpelle un petit peu. L'école de la deuxième chance, c'était il y a 25 ans. Est-ce qu'il y a un rajeunissement du nom qui peut être envisagé?
Alors, pas vraiment, parce que du coup, on
j'aime bien ce nom,
avec le réseau. Le terme est quand même très évocateur.
C'est un label.
Deuxième chance, voilà, c'est un label, tout à fait. Et deuxième chance, ben, ça parle à tout le monde. Comme le disait Anthony tout à l'heure, on est vraiment sur une approche philosophique par rapport à ces jeunes, partant du principe que tout le monde a le droit à une deuxième chance, voire plus.
On est d'accord.
Que certains ont eu moins de comment dire, peut-être d'avantages ou de facilité au départ.
Les inégalités sociales, avec les aléas de la vie aussi qui font
tout
que certaines ont pu être évincées du système aussi.
C'est ça, et que nul n'est à l'abri d'un accident de parcours, d'une difficulté dans la vie, et que c'est important de pouvoir trouver des dispositifs avec des professionnels engagés qui vont croire en vous et vous proposer justement cette deuxième chance pour rebondir. Peut-être vous donner quelques dates.
Oui,
tout à fait. Donc, des événements qui vont se passer.
Le 17 mai prochain, on organise un tournoi de foot au sein de l'école. On a la chance d'avoir un grand stade, donc avec des jeunes issus des quartiers alentours. Voilà, vraiment en mode tournoi. L'idée, c'est aussi de permettre à des jeunes donc, de découvrir le site de manière ludique et pourquoi pas nous rejoindre par la suite.
Ça, c'est le 17 mai, on est d'accord, tournoi de foot.
C'est ça.
À destination des jeunes, et ça se passe le samedi 17 mai.
C'est ça.
Voilà.
Tout à fait. Donc sur le site de Saint-Louis, dans le 15e. Le 22 mai, on organise une fête de l'Europe, voilà, avec des partenaires entreprises, des partenaires associatifs, des institutionnels. On aura la chance d'accueillir le nouveau DGS de la ville de Marseille, notamment. La semaine prochaine, on accueille une délégation du Maroc, donc qui vient de l'ONG Tibu Africa, qui développe énormément d'écoles de la deuxième chance au Maroc, mais dans d'autres pays d'Afrique. Donc, on est sur un échange de pratiques, rencontres entre les jeunes.
C'est parfait, ça.
Le 20 juin, on organise une fête de la musique, donc là, plutôt ludique et festif. Et le 2, 3 et 4 juillet, un business game grandeur nature pour permettre aux jeunes de découvrir l'entrepreneuriat avec le soutien de l'Épopée, et qui a obtenu un financement de la BPI. Et,
on peut dire un mot sur l'Épopée, pardon,
oui.
Lila Sommet, d'indiquer
sûr.
Ce que représente l'Épopée, justement.
Alors, l'Épopée, c'est un tiers-lieu pédagogique qui est situé dans le 14e arrondissement, Sainte-Marthe, donc qui abrite plus d'une soixantaine de sociétés, donc qu'on appelle des résidents. Ils sont hyper intéressants, donc vraiment dans le...
Qu'on recevra avec plaisir sur Radio
Tout à fait. Je crois qu'il y a de l'économie solidaire.
C'est ça, ils sont dans l'économie sociale et solidaire et ils font des choses vraiment super. Et il y a de très belles connexions qui peuvent justement se faire avec le public jeune.
Mais on va profiter de votre réseau pour inviter tous ces acteurs-là, parce que c'est extrêmement important et vous faites un travail remarquable au sein de l'école de deuxième chance, donc on tient à signaler. Il nous reste une petite minute. Cédric, peut-être vous voulez faire un petit complément.
Bah écoutez, déjà, je voulais vous remercier hein, de pouvoir nous donner la parole sur nos actions dans cette école.
C'est nous
merci
qui vous remercions.
Merci pour votre accueil, merci pour
ce
libre parole.
C'est nous qui vous remercions d'être venus.
Voilà.
En tout cas, c'est un vrai plaisir. Et puis, on l'a bien compris, cette connexion aussi. Aujourd'hui, vous êtes venu avec Cédric Agnel, vous aurez pu venir avec un autre partenaire ou une autre. Mais ça a du sens, évidemment. Et c'est extrêmement porteur d'espoir de se dire qu'on peut réussir, on peut envisager une alternative. Les jeunes, ben, ils ont le droit de se tromper, ils ont le droit de fauter, mais par contre, ils
veulent... Et les anciens aussi, hein.
Et les anciens aussi, tu as raison. Ben, comme on est sur le 16-25 ans, on va dire qu'on est quand même... On est quand même jeune, même si nous, ça fait un moment
qu'on
est.
Oui, on reste jeune.
On reste jeune, évidemment. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Je vous laisse le dernier mot à chacun pour conclure. Cédric l'a fait s'il souhaite compléter de nouveau. Et vous dire qu'avec grand plaisir, on restera en contact et faire des émissions. Tout au long de l'année, on pourra envisager avec vous 3-4 émissions par an dans lesquelles on fera des éclairages sur vos actualités et votre belle structure.
C'est une radio de la deuxième chance.
Merci beaucoup.
C'est une radio de la deuxième chance aussi.
Bah, parfait. Merci beaucoup. Et du coup, on pourra vous éclairer au fur et à mesure sur tous les événements qu'on projette d'ici à la fin de l'année. Et vous dire, donc, on est situé au 360 chemin de la Madragueville, 15e arrondissement de Marseille, et on sera ravis d'accueillir les jeunes qui souhaitent nous rejoindre et les moins jeunes qui souhaitent formaliser des partenariats, entreprises, associatifs. Et vous, ce sera toujours avec grand plaisir, chers amis de Radio Galère.
Merci. Et c'est tous les 15 jours qu'on peut
on doit conclure,
rentrer dans votre école, c'est ça?
C'est ça, tous les 15 jours.
Donc, merci, Lila Sommet, Cédric Agnel. On a notre coordinateur d'antenne qui va reprendre le fil de l'émission pour une technique Livres et Amis. Merci mille fois d'avoir été avec
merci
nous.
Merci à vous.
On reste en contact. On rappelle que cette émission sera rediffusée ce dimanche de 11h à 13h. Donc vous, ça sera de 12h30 à 13h puisque vous êtes sur la dernière partie.
Ça permet de voir si on dit des trop de bêtises.
De l'émission. Merci, au plaisir. On se retrouve la semaine prochaine de 8h à 10h sur les ondes de Galère. Merci Lila Sommet. Merci Cédric Agnel.
Merci beaucoup.